Il est 7h, excellent réveil.
Dans les bars, on essaie de respecter les distanciations sociales. Et chez nous, ce sera n'importe quoi.
Plus question de boire un verre jusqu'au bout de la nuit. Depuis hier soir, les bars parisiens doivent fermer à 22h. Décision incompréhensible pour les patrons comme pour les clients. Illustration de deux visions qui s'opposent. Ceux qui ne croient pas à une deuxième vague trouvent que les mesures sont trop sévères. Et puis, la plupart des médecins qui s'appuient sur des chiffres. On va faire le point dans un instant. L'actualité, c'est aussi la découverte du corps de la jeune fille de 18 ans qui avait disparu samedi à Villefontaine en Isère. C'est désormais la psychose dans la commune. Veolia, qui espère convaincre Engie d'accepter son offre d'achat de Suez pour créer un géant de l'eau. Mariage qui pourrait ternir l'image d'Emmanuel Macron. On va vous dire pourquoi. Et puis c'est toujours un événement dans le monde littéraire. La sortie du dernier Marc Lévy, C'est arrivé la nuit en librairie. Aujourd'hui, s'intéresse à des hackers, des pirates informatiques qui jouent les Robins des Bois.
Juste après ce journal, le gouvernement ouvre les vannes dans le budget 2021. Présenté hier, un budget hors norme. Est-il réaliste? L'éclairage écho de Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouet. Raphaël Nadal n'est plus le grand favori de Roland Garros. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Incompréhension, c'est le maître mot des patrons de bar, mais aussi des clients à Paris et dans une dizaine de grandes villes depuis hier soir. C'est donc fermeture obligatoire à 22h, dernier carat.
Mesure qui doit pour l'instant rester en vigueur pendant 2 semaines. Pour beaucoup, reste une alternative, terminer la fête à la maison. Reportage dans le 11e arrondissement de la capitale, Hélène Tarzian.
Messieurs, dames, on ferme, je suis désolé, il est 22h.
Les chaises sont empilées, rentrées en salle, le rideau se baisse et les clients gentiment est conduit sur le trottoir.
D'habitude, c'est à 2h du matin que je traînais mon verre dans la rue, maintenant c'est à 22h.
Mais pour beaucoup d'entre eux, ça ne sonne pas la fin de la soirée. Avec ses amis, Paul file tout droit vers la supérette.
On espère que le Franprix d'en face soit ouvert et qu'ils vont encore de l'alcool. Sinon, ouais, on va aller prendre des bières et puis on va aller s'enfermer dans un appartement, ce qui n'est pas plus intelligent.
Un plan B qui, Estelle l'admet aussi, est contre-productif.
Évidemment que tout le monde va aller faire la fête les uns chez les autres et que ça déplace complètement le problème. Dans les bars, on essaie de respecter les distanciations sociales et chez nous, ce sera n'importe quoi.
Les patrons de bars, eux, sont résignés, même si, comme le laisse entendre ce barman, certains pourraient braver la restriction.
C'est pas exclu qu'on rentre dans une époque de prohibition où clairement, il y a des rideaux fermés avec des soirées qui se passent derrière. Au-delà des besoins qu'ont les restaurateurs et les bars de pouvoir vivre, il y a le besoin de la population de pouvoir souffler.
Mais ce que les gérants redoutent le plus, c'est de devoir, comme à Marseille, fermer complètement leur établissement.
Il y a cette phrase qu'on entend beaucoup, « Stop à la dictature sanitaire ». Et doucement mais sûrement, la société est en train de se scinder en deux.
Et oui, avec d'un côté ce qu'on pourrait qualifier d'alarmiste ou de réaliste, selon ses convictions, et puis de l'autre, les rassuristes, emmenés par certains chercheurs comme les professeurs Toubiana ou Toussaint, qui contestent l'arrivée d'une deuxième vague. Avec vous, Victor Deland, on tente d'y voir un peu plus clair ce matin.
D'abord, il y a cet argument qu'avancent les patrons de bar. La circulation du virus ne change pas en fonction de l'heure. Pour eux, ça ne sert absolument à rien de fermer leurs portes à 22h. C'est faux, répond Christine Rousio, virologue à l'hôpital Necker.
Le type d'argument qui m'est donné tout le temps, c'est la fermeture à 22h parce que le virus, il passe pas après 22h02 ou 22h03. C'est n'importe quoi. C'est de la mauvaise foi. Au-delà de 22h, on commence à s'alcooliser. C'est là que la consommation est la plus importante. Ça veut dire que c'est là que le risque de s'infecter est multiplié par 4.
Deuxième argument, très souvent avancé par Laurent Toubiana, chef de file des rassuristes, la deuxième vague relève de la fiction. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, s'étrangle quand il entend ces arguments.
Ça m'énerve parce que je pense que la deuxième vague, ça va être beaucoup plus compliqué. Tout le monde parle du Covid et en fait, très peu de gens ont accès à la réalité de terrain et à cette dynamique qui se passe actuellement.
Cette réalité, les spécialistes de santé publique la rappellent avec des chiffres. Plus de 10 000 nouveaux cas par jour, 1100 patients actuellement en réanimation et le nombre de morts qui s'alourdit chaque jour un peu plus.
Ajoutons, Victor Deland, le taux de positivité qui grimpe un peu plus chaque jour, 7,5%, 1246 foyers de contamination à l'étude en ce moment, dont 245 en EHPAD.
7h04 sur Europe 1, Victorine avait 18 ans. Elle était portée disparue depuis samedi à Villefontaine, en Isère. Son corps a été finalement retrouvé hier dans un ruisseau.
Et une autopsie est prévue dans la journée, mais l'enquête est ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de l'Isère. Parmi les hypothèses retenues, celle d'une mauvaise rencontre à Villefontaine, Jean-Luc Bougeon.
Que s'est-il passé près du stade de Villefontaine samedi, peu après 19h? Car 19h, c'est l'heure où Victorine appelle chez elle pour dire qu'elle rentre à la maison, qu'elle est près du terrain de foot et qu'elle sera là bientôt. Sauf que Victorine ne rentrera jamais. C'est immergée dans un ruisseau tout près de là que son corps a été retrouvé hier, avec un peu plus loin ses baskets, son sac à main et un masque chirurgical. Une des hypothèses explorées par les enquêteurs, c'est donc celle d'une mauvaise rencontre. Le lieu s'y prête, avec un chemin de promenade qui longe le ruisseau et d'innombrables bosquets où il est facile de se cacher ou d'agir sans se faire voir. Un scénario qui effraie Karim, un voisin des parents de Victorine, dans leur lotissement de Villefontaine.
On a peur pour nos enfants. Ça fait 30 ans que j'habite là. Des trucs comme ça, crapuleux, on n'a jamais connu ça en fait. Et maintenant, j'ai peur pour mes enfants, on a 4 enfants. Et ça sera plus pareil maintenant. On va fermer toutes les portes, on va se méfier maintenant. On a peur, quoi, voilà.
Une psychose qui s'installe et des enquêteurs qui décortiquent aussi les relations de Victorine, ses activités ou ses échanges dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Car à ce stade, ils ne peuvent écarter l'hypothèse que la jeune femme ait rencontré quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Villefontaine, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La 5G aux enchères. Les premières fréquences sont attribuées aujourd'hui, ce qui devrait permettre l'arrivée des premières offres d'ici la fin de l'année.
En lice, les 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et Free, vendent aux enchères qui devraient rapporter à l'État plusieurs milliards d'euros.
On y revient à 8h15 ce matin avec Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk.
Invité d'Europe 1 ce matin également, Bertrand Camus, directeur général de Suez, qui prédit déjà une situation ingérable si le mariage avec Veolia se concrétise. Et ce que vous nous dites ce matin, Michaël Darmon, c'est que sur le plan politique aussi, cette alliance pourrait avoir de sérieuses répercussions, notamment pour l'image d'Emmanuel Macron.
Et oui, c'est ce que les proches du président s'évertuent à l'expliquer depuis quelques semaines. Selon plusieurs poids lourds de la majorité présent au dîner du mardi à l'Élysée, la casse sociale sera inévitable, car disent-ils, jamais une fusion n'a pu préserver des emplois. Un de ses amis a même prévenu Emmanuel Macron sans détour. Tu vas te retrouver en pleine campagne présidentielle avec l'image du banquier d'affaires qui a autorisé cette fusion.
Et qu'est-ce qu'il peut faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a les moyens d'empêcher ce rapprochement?
Alors en théorie non, car c'est une opération économique sur laquelle le pouvoir politique n'a pas de prise. Mais des messages passent. Jean Castex, vous savez, présentait ce dossier au début comme l'opportunité de créer un champion mondial du traitement des eaux. Emmanuel Macron, lui, estime plutôt qu'on pourrait conforter 2 champions au lieu d'en avoir un seul. Aujourd'hui, face aux problèmes que cela soulève, eh bien le Premier ministre ne parle plus du tout de cette opération entre Veolia et Suez. Il a même d'ailleurs renvoyé le dossier à Bercy. Un dossier qui est devenu maintenant un enjeu pour la campagne présidentielle de 2022.
Michaël Darmon, vous parliez de casse sociale. Selon le groupe Suez, 10 000 postes seraient menacés par le projet de fusion, dont la moitié en France. L'intersyndicale appelle d'ailleurs à un rassemblement aujourd'hui à la Défense.
Des retraités qui ne peuvent plus rentrer dans leur résidence secondaire à Théoul-sur-Mer parce qu'elle est occupée par des squatteurs. L'affaire avait fait grand bruit. C'est maintenant la loi qui devrait changer.
Oui, les députés viennent d'entamer l'examen d'un amendement pour modifier la loi Dalo sur le droit au logement opposable. Il étend la notion de domicile aux résidences secondaires et permet d'accélérer la procédure, en tout cas en théorie. Johanna Chabas.
Un amendement pour mettre fin au flou législatif. Auparavant, un propriétaire pouvait saisir le préfet pour expulser des squatteurs de son domicile seulement. Donc les résidences secondaires n'étaient pas concernées. Désormais, ce sera le cas. Une clarification nécessaire pour le député Guillaume Kasbarian, porteur du texte, qui veut aussi accélérer le processus d'expulsion.
Là, les préfets sont dans l'obligation de vous répondre sous 48 heures. La procédure, elle est à la fois plus claire sur quels sont les types de domiciles concernés et en même temps plus rapide et plus efficace en ce qui concerne l'action de la préfecture.
Mais pour maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier, cet amendement n'est pas la solution magique contre les squats. Il redoute que les préfets n'utilisent pas leur pouvoir.
La plupart du temps, les préfets ne bougent pas et cette procédure est rarement mise en place. S'il y a des enfants, notamment dans les lieux, en fonction du profil des squatteurs, le préfet peut refuser d'accorder le concours de la force publique.
Des préfets souvent frileux qui, pour l'avocat, n'auront jamais le temps en 48 heures d'examiner des dossiers toujours complexes. Selon lui, le moyen le plus efficace pour récupérer son logement reste la procédure judiciaire. Une procédure toutefois coûteuse et qui dure généralement entre 18 et 24 mois.
Johanna Chabas, un mot de Roland-Garros avec la déception. Mon fils, à peine arrivé, déjà éliminé. Le meilleur français s'est incliné dès le premier tour face au Kazakh Bublitch. En revanche, qualification de Pierre-Hugues Herbert, d'Alizé Cornet, mais aussi de Raphaël Nadal.
Chaque sortie d'un roman de Marc Lévy est un événement. L'homme aux 50 millions de livres vendus. 50 millions de livres vendus, écoutez bien, célèbre ses 20 ans de carrière avec la parution de son dernier bébé aujourd'hui, C'est arrivé la nuit.
Oui, premier tome d'une série intitulée 9. Vous l'avez lu pour nous, Nicolas Carreau. C'est bien un roman, mais il est inspiré de faits réels.
9, c'est le nombre de personnages qui peuplent ce nouveau roman, des Robins des Bois modernes qui remplacent les flèches par un ordinateur. Marc Lévy.
Ce sont 9 hackers de très haut niveau qui se sont unis, qui forment un groupe de résistants qui s'attaquent à la vilainie du monde et particulièrement à la grande criminalité en col blanc et à ceux qui, en abusant de leur pouvoir, provoque des dégâts considérables sur la société.
Scandale sanitaire, élections truquées, les affaires et les techniques de piratage ont l'air très vraies. Et pour cause, Marc Lévy a rencontré ces personnages dans la vraie vie.
Ça a été un long travail de réseau pour les approcher, pour se faire accepter, pour établir une charte de confiance. On montre pas de blanche. Après, il y a une question de confiance qui s'établit. Donc ça a été un long travail pour les approcher, mais une fois que... la chose a été faite, voilà.
3 ans d'enquête qui ne tiennent pas en un seul volume. Le prochain tome s'appellera Le Crépuscule des Fauves. Il est prévu pour le début de l'année prochaine.
Et en attendant, sorti donc aujourd'hui de C'est arrivé la nuit chez Robert Laffont. 350 000 exemplaires en librairie pour commencer.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une guerre, un bras de fer industriel sur Europe 1 ce matin. 2 fleurons français. Veolia qui veut racheter Suez, ce dernier qui ne veut pas être absorbé et qui compte bien proposer un projet alternatif. Veolia accusé de démanteler Suez, les garanties sur l'emploi, sur les prix pour les Français aussi. Ce sont les 2 leaders mondiaux de l'eau et des déchets. L'offre de Veolia expire demain. On essaye d'y voir plus clair ce matin sur Europe 1. Bertrand Camus, directeur général de Suez, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h13 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Tout est hors norme dans le budget présenté hier par le gouvernement. Au point que ce matin, Nicolas, vous nous dites qu'il y a peu de chances finalement que les scénarios de dépenses et de recettes soient tenus.
Oui, vous savez, c'est un budget qui est construit sur des sables mouvants. Les entreprises d'ailleurs en ce moment qui font aussi leur budget pour l'an prochain se posent la même question que l'État. Est-ce qu'on fait un budget en prenant comme hypothèse que la crise du Covid sera terminée en 2021 ou qu'elle repartira ? Alors c'est la première hypothèse qui a été retenue. Après tout, on ne sait pas comment évoluera la pandémie, mais du coup quelqu'un comme Éric Woerth, le président de la commission des finances à l'Assemblée, a beau jeu de parler de budget zombie puisqu'en effet les bases sur lesquelles il repose sont très très aléatoires.
Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que les vannes sont grandes ouvertes.
Ah oui, alors ça donne franchement le vertige. Remarquez le changement de paradigme. Avant le Covid, augmenter les dépenses, c'était mal. C'était le signe qu'on ne pouvait pas tenir les comptes de la nation. Maintenant, augmenter les dépenses, c'est bien. C'est le signe qu'on fait tout pour sauver l'économie de la nation, quoi qu'il en coûte, comme a dit le président. Donc on y va. Les crédits des ministères vont bondir de plus de 11 milliards. L'écologie, plus 5-6%. La défense, plus 4,5%. La justice, plus 8%. L'enseignement plus 2,6, la culture plus 3,7%, etc., etc. J'ajoute que malgré toutes ces largesses, il risque fort d'y avoir des dépenses imprévues. Par exemple, le budget pour l'an prochain ne prévoit rien pour le chômage partiel, ce qui est quand même pas très prudent.
Les dépenses s'envolent, oui, mais c'est pour éviter l'effondrement de l'économie, Nicolas.
Alors oui, d'ailleurs, les chiffres sont spectaculaires, hein, parce que sur 2 ans, la France va perdre 370 milliards de richesses. C'est un peu l'équivalent d'une économie comme Israël qui se serait évaporée. C'est un appauvrissement considérable, près de 6 000 euros par Français. Alors ça justifie en effet une augmentation des dépenses publiques pour atténuer le choc. La France, pour financer tout cela, va emprunter 260 milliards sur les marchés financiers. On empruntait 200 hein, avant le Covid. Mais le défi ensuite va être de revenir dans les clous, de réduire les dépenses quand l'économie ira mieux, de rétablir les comptes de la Sécu, de commencer à se désendetter pour éviter que la dette ne devienne complètement insoutenable. Ce sympathique programme, c'est celui qui devra s'appliquer à partir de 2022 pour le prochain quinquennat.
Merci Nicolas Barré. Il est 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous et à tous.
À toutes, à tous, à tout le monde. Tous nos auditeurs ce matin
Madame,
réunis
monsieur,
autour de la table pour vous écouter. Des combats meurtriers ont lieu dans le Caucase depuis plusieurs jours. Et la guerre qui, aujourd'hui, menace d'emporter l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Alors aux confins de l'Europe, il y a des tyrannosaures. Ils vivent à l'ère soviétique. Il n'y a pas que Loukachenko au Bélarus, la famille Aliyev. Le père puis le fils règnent sur l'Azerbaïdjan depuis 50 ans. Et là aussi, le trône vacille. Avec des cours du pétrole en chute libre, l'épidémie de Corona, l'économie qui flanche. Il ne faut pas chercher plus loin. Pourquoi la guerre oubliée du Karabakh s'est rallumée ? Ilyan Aliyev s'est lancé à la reconquête de l'enclave arménienne, ce coin de montagne peuplé d'irréductibles orthodoxes qui ont décrété l'indépendance il y a plus de 30 ans. Aliyev met des blindés, de l'artillerie, des drones dans cette croisade. Toute la ligne de démarcation est une ligne de front. En face, le Karabakh résiste. L'Arménie à côté mobilise. Ils sont 3 fois moins nombreux, 100 fois moins riches. Mais la dernière fois, en 94, ils ont mis une pilée aux Azéris et ils espèrent bien recommencer. Ça fait 1000 ans qu'ils se battent. Et des deux côtés, la cause est sacrée.
Les combats ont fait 95 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence tout à l'heure.
C'est picrocol dans le Caucase, mais ça peut dégénérer parce que derrière le Karabakh, il y a l'Arménie, et derrière, il y a la Russie. L'Iran pourrait s'en mêler et la Turquie s'en mêle déjà. La France est concernée. Elle co-préside un groupe chargé d'une médiation pour une paix juste et durable. Ça remonte aux années 90. Depuis le temps, les diplomates somnolaient. Une première alerte en juillet à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan les a réveillés en sursaut et ils regardent effarés la Turquie poussée au crime. Recep Tayyip Erdogan n'appelle pas ses frères azéris au calme, il les appelle à la victoire. C'est un pays frère, des turcophones, des musulmans.
Il est à leur côté par tous les moyens, dit-il.
Plusieurs centaines de fanatiques qui ont fait le djihad en Syrie ont été envoyés en renfort en Azerbaïdjan. La même légion étrange qu'Erdogan a déployée en Libye. Des drones et leurs pilotes, les mêmes qu'à Tripoli, ont aussi été prêtés à Aliyev. Et la propagande de guerre envahit les médias turcs. On dirait qu'un siècle après le génocide, il faut de nouveau écraser l'Arménien. Alors faites les comptes, la Turquie occupe un tiers de Chypre, le nord de la Syrie, El Guerroua au Maghreb et maintenant dans le Caucase. Il serait temps que l'OTAN et l'Europe se réveillent.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h18 sur Europe 1. À suivre, Raphaël Nadal, 12 fois vainqueur de Roland-Garros. Pourquoi n'est-il plus le grandissime favori? L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute, juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Raphaël Nadal a passé le premier tour de Roland-Garros sans encombre hier. Pourtant, pour vous, cette année, et ça faisait longtemps, l'Espagnol n'est pas forcément le favori du tournoi.
Bah en tout cas, un petit peu moins que d'habitude. Les autres années, lors du premier tour de Roland-Garros, on sait déjà comment ça se finit dans le tableau masculin, avec Raphaël Nadal qui croque la Coupe des Mousquetaires. Il a gagné 12 fois à Paris depuis 2005. Mais là, cette année, oui, c'est différent. Vous avez peut-être remarqué qu'on est fin septembre, il fait froid, il pleut, on le répète en boucle depuis 3 jours. Et ça change beaucoup de choses pour Raphaël Nadal. L'une de ses principales forces sur terre battue, c'est son lift puissant. C'est-à-dire qu'il frappe la balle de bas en haut et du coup, quand elle rebondit, elle gicle très haut, très fort. Et plus la terre est gorgée de soleil et de chaleur, plus c'est impressionnant. Autant dire que là, avec le froid et l'humidité, ça atténue l'effet. Alors attention, Nadal ne va pas devenir un joueur moyen. Mais à ce niveau-là, ça peut faire une vraie différence. Surtout qu'il déteste les nouvelles balles de Roland-Garros. Bon, ensuite, l'Espagnol a très peu joué cette année. Il a fait l'impasse sur l'US Open. D'habitude, il arrive à Paris avec plusieurs victoires sur terre battue. Là, rien. Il peut donc manquer un peu de repères. Et puis, si Raphaël Nadal est le roi de la terre, c'est aussi le champion du monde de la routine. Regardez-le avant de servir. Il soulève une épaule, puis l'autre. Il passe un doigt sur son front, puis il tire sur son short. Toujours les mêmes gestes, dans le même ordre. Il est rempli de toc. Et là, tout son environnement est bouleversé. Donc, ça peut le perturber.
Et si je vous écoute, Virginie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a plus de suspense cette année.
Bah oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, il y a des jeunes joueurs qui arrivent à maturité et qui peuvent plus l'embêter qu'avant. Moi, je pense à Dominic Thiem, l'Autrichien qui vient de gagner l'US Open. Maintenant, il a conscience qu'il fait partie de ce cercle fermé des joueurs capables de gagner en grand chelem. S'il rejoue contre Raphaël Nadal, ils peuvent se retrouver en demi-finale. Il sera moins timoré que lors de la finale de l'an passé. Il sait qu'il peut le faire, il n'y a plus de blocage. Et puis vous avez aussi Novak Djokovic, avec qui vous avez parlé hier, qui a 2 ou 3 choses à
il
se faire...
Il vous passe le bonjour,
Virginie. Ouais, je m'en doute. Il a quand même 2 ou 3 choses à se faire pardonner en cette année 2020, c'est peut-être pour ça. Il va être plus motivé que jamais pour faire tomber Raphaël Nadal. Je ne dis évidemment pas que l'Espagnol ne gagnera pas. Vous connaissez son mental. S'il enchaîne quelques victoires comme celle d'hier, il peut très vite être dans sa zone de confiance et devenir injouable. Mais s'il gagne, pour moi, ce sera le plus grand exploit de sa carrière à Roland-Garros.
Merci Virginie Fulpin. Et on va suivre vivre Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Vous le savez, à 8h30, le journal de Roland. Il est 7h23. Et c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern, on parle d'histoire tous les matins. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En cherchant des expressions à décortiquer, je suis tombé sur celle-là. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux, ou encore demain est un autre jour. Leur point commun, eh bien, ce sont des tautologies. On répète la même idée, c'est un pléonasme, une lapalissade. Et je voulais revenir ce matin sur ce brave homme, Jacques II de Chabannes, maréchal de François Ier, seigneur de La Palisse, une commune de l'Allier à 25 km de Vichy.
Je ne savais pas la situer, donc là c'est précis.
Bah oui, c'est important. Alors que l'on se moque volontiers des personnes qui commettent ces répétitions, tout comme on s'est moqué de monsieur de La Palisse, sachez que c'est très injuste, car ce dernier n'a jamais commis le moindre truisme. On peut dire, oui, on peut dire truisme, ça vient de true en anglais.
Ah bon, je ne le savais pas non plus. Alors, comment monsieur de La Palisse a inventé les fameuses lapalissades ?
Eh bien, en mourant, mais oui. Il est mort en 1525 au combat de Pavie en Lombardie, et sa veuve fit écrire sur sa tombe ces quelques mots. « Hélas, La Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. » Un plaisantin, mais également poète, Bernard de la Monnoye, fit exprès de confondre le F et le S, ce qui donna « S'il n'était pas mort, il serait encore en vie. » Il décida d'en faire une chanson, truffée de la palissade, qui donna à Monsieur de la Palisse une étonnante postérité. Allez, laissez-moi vous offrir une dernière lapalissade, celle de Johnny qui nous manque, et pas que pour ses chansons. On se souvient de l'analyse qu'il avait faite de sa propre course au Paris-Dakar en 2002, en déclarant « Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait déjà là depuis une heure et quart ». C'est la plus belle de la palissade, non Mathieu ?
On vous retrouve, je suis d'accord, on vous retrouve à 16h Stéphane.
Oui, absolument, avec un beau programme. Fashion Week oblige, on réunit trois fashion victimes de l'histoire qui n'auraient pas pu se croiser au défilé. Trois personnages sapés comme jamais. La reine Marie-Antoinette et ses robes, l'empereur chinois Mao Tse-tung et son col, et Maître Gims forcément. Bref, on vous raconte l'histoire de toutes les tailles, la grande, la petite, la moyenne, tout à l'heure, dès 16h sur Europe 1 avec Mathieu Noël.
A tout à l'heure Stéphane.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre la météo, Laurent Cabrol. Et le journal de 7h30, ça sera avec Sophie Hachène. Très bon réveil. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et nous retrouvons Laurent Cabrol à 7h29 pour la météo.
Et moi, je vous propose la météo de l'oreille dressée. Chers amis, vous avez une région, vous habitez une région, vous voulez connaître le temps de cette région. Bien, dressez bien l'oreille, quand vous l'entendrez, pouf, je vous donnerai le temps. Bretagne, Normandie, Picardie, Nord, Champagne-Ardenne, Bruine et puis Fine. Poitou-Charentes, Limousin, Berry, Bourgogne, Lorraine-Alsace et Mâconnais et région parisienne, attention, humide, et ensuite ça ira un petit peu mieux, notamment sur Paris et des éclaircies cet après-midi. Sud-Ouest, Auvergne, Franche-Comté-Rhône-Alpes, brouillard mais voilé, Pyrénées, littoral atlantique, littoral méditerranéen plus le massif alpin, du soleil. Voilà, les températures entre 18 et 20 degrés, vous pouvez rebaisser votre oreille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Et remonter l'oreille à présent, Sophie Hachène nous a rejoint, redressé l'oreille. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal sur Europe 1, il est 7h30.
C'est une lame de fond animaliste qui s'attaque à l'élevage et cela va entraîner en France une perte de près de 2500 emplois dans la fourrure.
Le coup de gueule des professionnels des métiers de la fourrure alors que les élevages de visons vont bientôt être fermés. C'est l'une des volontés de la ministre de la Transition écologique qui doit faire une série d'annonces sur le bien-être animal ce matin. La rencontre très attendue aujourd'hui en Lituanie entre Emmanuel Macron et l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial. Coup d'envoi aujourd'hui des enchères pour l'attribution de la 5G en France. Europe 1 s'est rendu dans une usine qui utilise déjà cette technologie. Et puis la rébellion de certaines salles de sport obligés de refermer leurs portes, elles ont décidé de continuer leurs activités quoi qu'il en coûte.
Le choc des titans, Veolia, Suez, l'offre de Veolia expire demain soir. Le patron de Suez ne veut pas être absorbé par son concurrent Bertrand Camus, directeur général de Suez, dans le tête-à-tête Europe Matin après ce journal. Jean Castex décevant sur la méthode, sur la concertation, l'édito politique de Nicolas Bétou. Nous retrouverons ensuite Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bientôt, la fin des élevages d'animaux à fourrure ou l'utilisation des dauphins dans les parcs aquatiques. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, rend aujourd'hui ses premiers arbitrages sur le bien-être animal. Virginie Salmen, elle doit annoncer des mesures en faveur de la faune sauvage captive.
Les éleveurs de visons sont déjà fixés sur leur sort. Les quatre élevages français vont devoir fermer d'ici 5 ans. C'est la décision du gouvernement, selon le porte-parole de la Fédération française des métiers de fourrure, Pierre-Philippe Frier. Il affirme que Barbara Pompili elle-même le lui a confirmé hier au téléphone.
D'après nos échanges, ce n'est pas pour des questions de maltraitance animale, car il n'y a pas de cas de maltraitance animale. Mais c'est en revanche pour suivre une lame de fond. Et nous estimons que cette fausse opinion, c'est une lame de fond animaliste. qui s'attaque à l'élevage et à la ruralité. Et cela va entraîner en France une perte de près de 2500 emplois dans la fourrure, car les acteurs se sentiront menacés et vont devoir délocaliser dans des pays plus accueillants et plus tolérants.
Et pour les trois parcs d'attractions avec dauphins, Marineland à Antibes, le parc Astérix et Planète Sauvage près de Nantes, les ONG, après avoir essuyé de nombreux revers, n'ont plus qu'une seule exigence, interdire la reproduction des 29 grands dauphins et 4 orques encore en captivité. Les plus jeunes devraient vivre encore 20 à 25 ans, puis s'en serait fini des spectacles avec dauphins en France. C'est l'un des sujets que la ministre doit trancher ce matin.
Virginie Salmen. Les hôpitaux et les cliniques réduisent encore leur capacité d'accueil. Un peu plus de 3400 lits d'hôpital ont été supprimés l'année dernière, selon une étude du ministère de la Santé publiée aujourd'hui. En revanche, près de 1500 places en hospitalisation ambulatoire ont été ouvertes.
Il sera le premier grand leader à rencontrer la figure de l'opposition biélorusse. Emmanuel Macron va s'entretenir ce matin avec Svetlana Tikhanovskaya à Vilnius, en marge de son déplacement en Lituanie.
Svetlana Tikhanovskaya s'y est réfugiée après avoir été battue par le président Alexandre Loukachenko lors des précédentes élections en août dernier. Adrien Beck, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Vilnius. Bonjour. L'opposante biélorusse demande à Emmanuel Macron de jouer un rôle de médiateur dans la crise qui secoue son pays en ce moment.
Oui, et c'est d'ailleurs la raison de cette rencontre avec Svetlana Tikhanovskaya, une rencontre à sa demande, a précisé Emmanuel Macron hier soir devant la presse. En fait, le chef de l'État s'est interrogé avant de trancher ces derniers jours. Le tête-à-tête aura donc lieu dans les prochaines minutes, en tout petit comité, loin des regards. Caméras et photographes ne sont pas conviés et même le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Alors, en recevant l'opposante biélorusse, le président confirme une position plus forte que celle de l'Union européenne dans cette crise et envoie un message de soutien aux pays baltes qui sont sur une ligne très dure vis-à-vis du président biélorusse Loukachenko. Mais cela pourrait froisser Moscou, soutien du régime biélorusse. Le Kremlin pourrait dénoncer une ingérence, selon un acteur du dossier, au risque de rafraîchir un peu plus la relation franco-russe, alors qu'Emmanuel Macron justifiait hier soir encore devant des Lituaniens très méfiants son dialogue avec Moscou.
Adrien Beck en ligne de Vilnius en Lituanie pour Europe 1.
Le début des enchères pour l'attribution controversée des fréquences 5G aux opérateurs aujourd'hui. Elle pourrait durer jusqu'à 2 semaines. Les 4 géants de la téléphonie mobile, Orange, SFR, Bouygues et Free, devraient proposer les premières offres grand public d'ici la fin de l'année.
Le déploiement et l'utilisation de la 5G sont au cœur de la polémique depuis plusieurs semaines, mais cette technologie est déjà utilisée dans certaines industries françaises, comme dans l'usine Schneider Electric au Vaudreuil, en Normandie, où s'est rendue Élise Dangean pour Europe 1.
Aujourd'hui, je fais le robot piloté à partir de Hong Kong.
Dans l'usine du futur de Schneider Electric, les transpalettes se conduisent tout seuls. Les opérateurs utilisent la réalité augmentée pour résoudre les problèmes techniques de leurs machines. Et le PDG Monde de l'entreprise basée à Hong Kong est là sous la forme d'un robot. Tout ça fonctionne depuis le début de l'année grâce à la 5G et c'est loin d'être du gadget, explique Christelle Heidemann, PDG France de Schneider Electric.
Dans les derniers mois qu'on vient de passer avec le Covid, là la 5G apporte un confort d'utilisation, une fluidité, une qualité d'image qui est absolument critique. Parce que quand on fait la réception d'une machine, par exemple industrielle, le client qui regarde la vidéo à distance veut pouvoir voir des détails.
Pour cette expérimentation, Schneider Electric s'est associé à Orange et selon son patron Stéphane Richard, c'est bien l'industrie qui bénéficiera le plus de cette avancée technologique. Il faut donc l'étendre le plus vite possible.
C'est une étape indispensable pour pouvoir apporter aussi des progrès essentiels pour la société. Par exemple, la médecine à distance, la voiture intelligente, les villes intelligentes.
Et le temps presse, selon Stéphane Richard, car d'ici 2 ans, le réseau 4G sera saturé, compliquant sérieusement les usages industriels.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Le corps retrouvé dans un cours d'eau en Isère est bien celui de Victorine, la jeune fille de 18 ans disparue samedi. Une autopsie sera menée dans les prochains jours pour connaître les causes de sa mort.
Le rideau a baissé bien plus tôt qu'à l'habitude sur les bars de Paris et de 10 grandes villes françaises en zone d'alerte renforcée dont Lille, Bordeaux, Toulouse ou Nice. Fermeture obligatoire à 22h désormais, consigne sanitaire du gouvernement.
Et dans ces zones d'alerte renforcées, les salles de sport et les gymnases, eux aussi, sont contraints de fermer leurs portes pour au moins 15 jours. C'est déjà trop pour les clubs et les associations déjà en difficulté depuis le confinement. Romain Hoquet a interrogé des gérants qui ont décidé de braver l'interdit.
À tout moment, les forces de l'ordre peuvent débarquer dans mon studio et me demander de fermer. Je prends ce risque, je ne sais pas trop ce à quoi j'encours, mais bon.
Un cours de yoga
hors la loi. Des séances en petit comité, 9 élèves maximum. Après le confinement, ce club parisien a perdu la moitié de ses adhérents. Alors fermer une deuxième fois, c'est fermer pour de bon, justifie la directrice.
On a eu pratiquement 4 mois de fermeture, aucun salaire. Et néanmoins, je me dois de payer mon loyer, je me dois de payer mes charges. Je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, je ne peux pas fermer ma salle.
Pour rester ouvert, d'autres clubs jouent avec les mots. La salle de sport devient un centre de formation à l'abri des restrictions. En revanche, pour les associations qui utilisent les gymnases des communes, braver l'interdit, c'est dire adieu aux précieuses subventions, regrette Johan, président d'un club de badminton francilien.
On n'a pas du tout notre mot à dire, à part à trouver un club dans un département qui n'est pas concerné par les restrictions, par exemple la Seine-et-Marne, pour un ou deux créneaux pour continuer et survivre, tout simplement.
Et si la situation s'éternise, l'association s'engage à rembourser ses adhérents au risque de mettre l'avenir du club en péril.
Un mot de tennis à Roland-Garros pour terminer avec la bonne nouvelle. D'abord, ça passe pour la jeune Clara Burel. La Française de 19 ans s'est qualifiée pour le deuxième tour. Échec en revanche pour Gaël Monfils. Le numéro 9 mondial a été balayé par le Kazakh Alexander Bublik, 49e mondial. À suivre aujourd'hui, Hugo Humbert contre l'Australien Mark Pulvans.
Merci beaucoup Sophie Echen. Il est 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Je vous pose la question ce matin, avez-vous peur de la 5G ou est-ce que vous l'attendez enfin pour capter peut-être? Les enchères pour l'attribution des fréquences débutent aujourd'hui dans ce climat de défiance. À 8h15, Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique au micro de Sonia Mabrouk. Nous reviendrons bien sûr sur l'échec de l'application Stop Covid. Aussi, les Français l'ont peu téléchargé, Jean Castex notamment. Mais tout de suite, le projet de rachat de Suez par Veolia. Le courant ne passe pas entre les deux géants français des métiers de l'environnement. Demain, qui ramassera nos déchets? Qui s'occupera de notre eau? Comment s'assurer que ces fleurons restent français aussi? Est-ce qu'on est plus fort tout seul qu'à deux? Beaucoup de questions. Hein. Alors que l'offre de Veolia expire demain soir, Suez n'en veut pas, mais Suez ne décide pas. Je m'y engage, vous allez tout comprendre au dossier économique de la rentrée, le plus brûlant de la rentrée. Bertrand Camus, le patron de Suez dans le tête-à-tête Europe Matin à suivre.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h41. Engie, dont l'État est premier actionnaire, a annoncé vouloir vendre ses parts dans Suez, un tiers du capital. Veolia lance début septembre une opération de rachat. Cette offre expire demain soir. Mon invité ce matin, acteur au cœur du dossier économique de la rentrée, Bertrand Camus, directeur général de Suez.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bertrand Camus, bonjour et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Vous, Suez, vous ne voulez pas de cette opération. La création d'un géant français de l'eau et des déchets, de l'environnement, vous plaidez la possibilité de construire un projet alternatif. Alors il y a, je le dis pour nos auditeurs, un jeu de bluff sur l'échéance, sur les 24 heures à venir. Veolia va améliorer son offre, apporter de nouvelles garanties, mais ne veut pas la prolonger. Ce matin sur Europe 1, vous, patron de Suez, vous demandez du temps.
Tout d'abord, pourquoi nous nous battons? Nous battons parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est une entreprise de 90 000 salariés qui va bien, qui investit, qui embauche et qui est menacée d'un démantèlement dans cette opération.
Suez.
Il est clair pour nous que Engie souhaite vendre sa participation. Ça a été clairement manifesté par le président du conseil d'administration au mois de juillet. Nous nous sommes mis en ordre de bataille pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est l'irruption de Veolia qui provoque cette urgence, alors que les enjeux qui aujourd'hui sont posés par cette opération méritent du calme et de la sérénité, comme l'a signalé le ministre de l'économie et des finances.
Alors j'insiste sur le rôle de l'État, premier actionnaire d'Engie. Quand il dit l'État ne se fera pas dicter son calendrier, Bruno Le Maire va dans votre sens, hein. Je crois que c'est ce que vous laissiez entendre aussi. Bercy appelle à prendre le temps nécessaire. Mais il dit aussi, nous prendrons tout le temps nécessaire pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, sans brutalité, dans l'intérêt des deux parties. Pour que cette opération se déroule, la réponse est claire, ça va se faire.
Il y a des questions de politique publique qui doivent être analysées, traitées dans l'étude de ce dossier. Et aujourd'hui, tous ces sujets-là ont été un petit peu mis de côté. Il y a fondamentalement la question de la concurrence. Comment peut-on imaginer qu'en éliminant son principal concurrent sur le marché français et à l'international, cela créera plus de concurrence sans impact sur les prix ou la qualité de service?
Bon, ce matin, ça, vous nous dites que ça va faire monter les prix de l'eau.
Soit la qualité du service baissera, soit les prix augmenteront. Et puis il y a toute la question de l'emploi, avec une forte mobilisation de nos équipes, l'ensemble de nos syndicats, qui savent très bien que ce genre de fusion amène à des destructions d'emplois. Nous les avons quantifiées à peu près 5000 personnes. Et les engagements qui sont pris, en fait, ne pourront pas être tenus, même s'il y a un souhait, parce que ça sera dans 3-4 ans et que l'ensemble des activités auront été cédées.
Je reprends dans votre réponse. D'abord, la question du pouvoir d'achat du portefeuille des ménages. Le prix de l'eau ou de la collecte des déchets, selon vous, va augmenter, c'est inéluctable, ou alors la qualité du service va baisser?
C'est la concurrence qui permet de maîtriser à la fois la qualité et le prix.
Antoine Frérot, le PDG de Veolia, prend des engagements clairs, fermes sur l'emploi depuis le début. Il disait ici même au micro de Sonia Mabrouk le 3 septembre qu'il n'y aurait pas d'impact sur l'emploi. Vous n'y croyez pas?
Et c'est pas lui qui devra mettre en œuvre ses engagements, puisque ça prendra 2 à 3 ans pour tout mettre en place, et que 75% à 80% de nos activités seront cédées à des tierces parties. Donc c'est ces tierces parties qui devront s'engager sur l'emploi.
Il s'engage alors qu'il ne pourra pas rendre de compte, c'est ça? C'est ce que vous dites?
Comment peut-il s'engager pour des parties tierces qui ne sont pas existantes aujourd'hui?
Je voudrais qu'on soit très clair, parce que vous le savez, moi je le sais. Je voudrais que nos auditeurs le comprennent bien. Antoine Frérot écoute Europe 1 ce matin et il vous écoute attentivement. Vous êtes en train de dire que c'est un menteur?
Je dis que même s'il est de bonne foi, il ne sera pas capable d'assumer ses engagements.
Comment est-ce qu'on peut être plus fort seul qu'à deux, Bertrand Camus?
Aujourd'hui, nous avons fait, nous, un pari qui est celui de l'innovation, de l'agilité, d'aller chercher nos marchés et nos réponses sur des secteurs sur lesquels nous pouvons nous différencier. C'est la stratégie que nous avons mis en place depuis un an et qui paye ses fruits. Nous gagnons des contrats en France et à l'international. Nous développons, nous investissons. Encore une fois, Suez va bien, se développe, investit et recrute.
Dans le projet alternatif que vous voulez construire et pour lequel vous demandez plus de temps, qu'est-ce qui nous garantit que Suez va rester français?
Nous avons engagé des discussions avec des partenaires potentiels pour reprendre la participation d'Engie. Nous avons besoin de calme et de sérénité pour pouvoir mener à bien ce projet. Et le cahier des charges, d'une certaine façon, a été clairement fixé par le ministre des Finances. Une majorité de capitaux français dans ce tour de table. Et c'est ce à quoi nous travaillons.
Mais là où Veolia nous promet, s'engage à créer un grand groupe français de la gestion des déchets et de l'eau en absorbant Suez dans Veolia, vous, dans votre tour de table, vous êtes aussi associé à des fonds étrangers.
Que ce soit Veolia ou Suez ou Engie, hein, nous avons à notre actionnariat des capitaux non seulement français mais internationaux. Donc ça, c'est l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui sont cotées en bourse qui vivent cette réalité. Mais nous avons clairement pris en compte le souhait d'avoir une majorité de capitaux français dans la solution que nous serons en mesure de proposer au gouvernement et à Engie.
Il y a... Je vous sens agacé ce matin.
Juste, je dirais, concerné par les responsabilités que j'ai vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes actionnaires, et de voir la situation ingérable dans laquelle nous allons nous trouver pendant 18 à 24 mois si ce projet se matérialise. Comment allons-nous répondre à des appels d'offres? Comment les clients pourront-ils choisir? Demain, il y a des pays dans lesquels c'est illégal d'être à la fois d'avoir des relations d'actionnariat et de répondre aux mêmes appels d'offres. Comment je recrute des talents pour les enjeux que nous avons à affronter aujourd'hui dans la crise économique, la crise environnementale? Comment je retiens les meilleurs? Et ce que je vois dans les 18 à 24 mois qui sont devant nous, si cette opération se matérialise, est un vrai, vrai souci, non seulement pour nous, mais pour Veolia, pour Engie et pour l'État.
Je terminerai par un point technique, Bertrand Camus. Suez, vous, pour bloquer le processus, vous avez placé votre division eau dans une fondation de droit néerlandais. L'idée, c'est de clairement bloquer l'opération de Veolia. Je parle sous votre contrôle. Veolia affirme dans le journal du dimanche, Antoine Frérot, que ça pourra se faire quand même. Là aussi, on est sur un poker menteur.
D'abord, c'est une action sur 42 millions d'actions qui ont été transférées à une fondation pour protéger justement ses activités en France. Si M. Frérot décide d'avancer dans son projet, il a d'autres moyens pour pouvoir régler le problème de la concurrence en France, en particulier vendre ses propres activités eau.
Vous pensez qu'il va accepter de reporter, de repousser l'échéance du 30 septembre, demain?
C'est à lui de voir.
C'est à Engie de voir.
Engie, aussi, bien entendu.
Engie d'accepter éventuellement de ne pas répondre. Vous leur dites quoi ce matin à M. Clamadieu, le patron d'Engie?
Moi, j'appelle tout le monde à prendre ses responsabilités. Les enjeux sont clairement posés sur la table. Encore une fois, il s'agit de l'avenir d'un groupe de 90 000 salariés qui performe, qui se développe, qui est un acteur essentiel économique en France. Et je suis convaincu que tout le monde va revenir à la raison pour avoir le calme et la sérénité pour régler les sujets de fond que pose cette opération.
Sinon, c'est quoi? C'est du gâchis?
18 à 24 mois de turbulences, d'agitation, et encore une fois, au détriment des clients, des consommateurs et de la société, à un moment où je pense que nous avons vraiment autre chose à faire.
Il faut bien comprendre que c'est clairement le dossier économique de cette rentrée. Les deux géants français que sont Veolia et Suez, géants de l'eau, de l'environnement, de la collecte des déchets. Merci Bertrand Camus d'être venu prendre la parole ce matin sur Europe 1. Directeur général de Suez, l'échéance demain soir minuit. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 7h49. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'était hier, le premier jour de fermeture des restos et des bars dans la région d'Aix-Marseille. Et dans l'ensemble, la profession s'est bien tenue.
Oui, et on a sûrement poussé un ouf de soulagement au gouvernement. La fronde des élus locaux, plus la colère d'une ville qui est persuadée d'être stigmatisée, ça promettait de donner un cocktail assez détonnant sur une population chauffée à blanc et parfois menacée par la ruine. Certains élus avaient même donné l'impression d'excuser par avance la désobéissance civique.
Bon, finalement, fausse alerte.
Oui. Oui, mais ça n'en fait pas pour autant une victoire pour le gouvernement. L'affaire laissera des traces, en particulier sur un thème, le manque de concertation. À part ceux qui se réclament d'En Marche, bien sûr, tous les élus locaux se sont en effet plaints des méthodes de gouvernement. Aucune discussion, aucune explication, une décision qui tombe de la capitale sans aucun préavis. Alors, je sais bien qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a affirmé avoir téléphoné aux principaux concernés, la maire de Marseille et le président de région, mais il l'a fait quelques minutes seulement avant l'annonce de la mise en surveillance maximale de Marseille.
Olivier Véran s'en est expliqué. Concerter ne veut pas dire tomber d'accord.
Ce qui est vrai, mais informer n'est pas concerté. C'est d'ailleurs un trait de caractère assez étonnant de ce gouvernement. Jean Castex, on s'en souvient, a été nommé avec un pitch, comme on dit, une feuille de route très terrain, très local. Il est arrivé avec en bandoulière la réputation de quelqu'un qui est sensible au territoire, qui les aime et les écoute, bref, qui concerte. Eh bien non. À Marseille, à Paris aussi, il a été pris en défaut sur ce point et ce n'est pas le seul cas. Le représentant d'un secteur clé pour la reprise économique me racontait hier qu'il avait découvert dans la presse le traitement pas forcément réjouissant, qui avait été concocté au budget pour ses activités. Pas un coup de fil, pas une lettre, le silence, une première dans sa relation de longue date avec les pouvoirs publics.
Mais est-ce que ce genre de démarche est du ressort du Premier ministre ?
Bien sûr que non, ce n'est pas forcément à Jean Castex lui-même de faire le travail d'explication, mais si aucun de ses ministres ne le fait, eh bien cela signifie que l'administration a repris du terrain alors que le remaniement avait été calibré justement pour que le politique reprenne la main. C'est la question du moment. Jean Castex a-t-il la main ? Sa première grande émission de télévision, jeudi dernier sur France 2, n'a pas, enthousiasmé tout le monde dans la majorité où on a ressenti une forme d'incapacité du chef de gouvernement et chef de la majorité à faire de la politique. Bon, ben, s'il n'arrive pas à se construire une autorité politique à lui et qu'il ne marque pas les esprits par sa méthode de gouvernement, alors oui, au bout du compte, il y aura un problème Castex.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Il est 7h54. Et tous les matins, Nicolas Cantelou, coach, conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et tiens, c'est Jean Castex qui est venu le coacher.
Je fais semblant de ne pas avoir entendu Monsieur Bétou. Bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, vous, comme vous le dites, je suis venu cocher et Cédric O, qui est un peu notre Jamy Gourmand, notre Michel Chevalette. Je suis, vous savez, féru de nouvelles technologies. Mais j'ai quand même une petite question pour Cédric O. J'ai, cher Cédric, mon téléphone mobile, mon mobile, comme disent les jeunes, de marque Sagem, qui fait téléphone et également... Et pardon, il fait téléphone, il fait que téléphone d'ailleurs. Est-ce que, cher Cédric, je vais capter la 5G ? 5G, pardon. Mais Jean, tu viens en quelle année ? Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, j'ai nommé un ami Premier ministre. Voilà, je suis d'accord avec l'édito de Nicolas Bétou. Je suis déçu par Jean Castex. Voilà. Monsieur Bétou, vous ne voulez pas son poste ? Même vous, Monsieur Béliard, tous les matins, je suis sûr que vous feriez mieux.
Oh, merci, Monsieur le Président, on va en rester là. Emmanuel Macron, merci beaucoup. Jean Castex aussi, qui ont coaché tous les deux. Voilà, l'invité politique de la matinale. Cédric O, le secrétaire d'État en charge de la transition numérique. Ce sera à 8h15, face à Sonia Mabrouk. 7h56.
Il est 7h59 sur Europe 1. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Il se dessine une petite moitié nord pour une grande moitié sud. Alors, petite moitié nord très humide, près de la Manche notamment. Humide ce matin en Ile-de-France et ça ira mieux après, comme sur le Bourgogne, le Limousin. Et puis, beaucoup plus ensoleillé dans le sud-ouest, la région Rhône-Alpes, les Pyrénées, littoral méditerranéen et massif alpin. Beaucoup plus ensoleillé en étant optimiste. Mais près de la Méditerranée, c'est pas trop mal. Température entre 18 et 20. Demain, moitié nord pluvieux, moitié sud soleil. Là, ça sera vraiment caractéristique. Jeudi, ça va pas bien aller dans le sud et dans l'est. Et puis vendredi, samedi, dimanche seront des journées très agitées. Franchement, ce sera pas sympa ce congé de fin de semaine. Hein. Et il y aura beaucoup de vent, il y aura beaucoup de pluie, notamment dimanche. Et il y aura aussi de la fraîcheur.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Si on allait dans un restaurant, si on allait dans un bar, si on allait dans une réunion à l'extérieur, eh bien, on a côtoyé des personnes qu'on ne connaît pas.
On ne les connaît pas et elles nous ont peut-être contaminés. Comment mieux tracer cette maladie quand même des ministres, et le premier d'entre eux, n'utilisent pas l'application StopCovid ? La définition même du cas contact est très mal comprise. Les territoires foudroyés par la crise économique, enquête Europe 1, là où les milliers de suppressions d'emplois, loin de Paris, font craindre aux élus bretons un bouillonnement social. Dans ce journal, le constructeur Renault, entre plan de réduction d'emplois et tout de même début d'optimisme. Le premier débat Trump-Biden ce soir, sans poignée de main, mais avec de vrais sujets d'empoignade. Et l'Académie des Césars face au défi de sa rénovation pour réconcilier le cinéma français avec lui-même.
Les fréquences 5G aux enchères aujourd'hui et le débat plus vif que jamais. Le flop de l'application Stop Covid aussi. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit celui qui est en charge de ces dossiers, le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En apparence si simple, la stratégie française anti-épidémie, tester, tracer, isoler, montre chaque semaine des faiblesses sur chacun de ces trois piliers. Les centres de dépistage débordent, l'isolement est très peu respecté, quant au traçage, il n'est pas bien performant non plus.
Prenons un exemple. La semaine du 14 septembre, seuls 7% des cas contacts théoriques se sont avérés positifs au coronavirus. Ève Roger, Santé publique France, parle d'un chiffre de faible niveau. Qu'est-ce qu'il signifie ?
Eh bien, ça veut dire que 93% des cas contacts identifiés par l'assurance maladie la semaine dernière sont négatifs. Une bien maigre pêche qu'on peut expliquer d'abord parce que les Français connaissent très mal la définition du cas contact selon l'épidémiologiste Martin Blachier.
Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'ils ont été en contact. Ça veut dire que dans l'opinion publique, le risque de transmission est largement surévalué. En fait, pour être cas contact, il faut avoir eu une interaction qui est relativement soit longue, soit proche.
Et sans masque. Et puis, deuxième écueil, la liste fournie par les malades n'est pas complète. Ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont infectés sont parfois déboussolés et n'arrivent plus à se souvenir qui ils ont croisé de près. Et puis enfin, et surtout, il y a beaucoup de cas contact qu'on ne connaît pas, rappelle Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM.
C'est en général assez facile de retrouver qui sont les gens de sa famille ou qui sont les gens de son entourage professionnel avec lequel on a eu des contacts. En revanche, si on allait dans un restaurant, si on allait dans un bar, si on allait dans une réunion à l'extérieur, eh bien, on a côtoyé des personnes qu'on ne connaît pas.
Sans coordonnées, on ne peut donc pas remonter les chaînes de contamination, ni même identifier et comptabiliser les clusters dans les bars et les restaurants.
Ève Roger pour Europe 1.
L'épidémie qui a fait 81 morts hier, on compte aujourd'hui plus de 1200 clusters en cours d'investigation, dont 250 dans les EHPAD. La crise économique, elle, n'est pas seulement un problème social temporaire, réglé à coup de chômage partiel. Le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, en a discuté hier en tête-à-tête avec Jean Castex. Il faut dire que son territoire est particulièrement touché.
Bonjour Charles Guyard.
Bonjour Mathieu.
Vous avez sillonné une région en sursis où la colère monte.
Et c'est à Morlaix qu'on a d'abord pris rendez-vous et d'entrée, le ton est donné par le maire Jean-Paul Vermeaux.
Ça gronde dans le Trégor, ça gronde dans le Léon, et on sent que là, il y a vraiment cette coalition qui est en train de monter très fortement. Le peuple pourrait se rebeller. Il est temps que des décisions que nous avons demandées trouvent réponse auprès du gouvernement.
Des réponses autrefois réclamées de manière plus radicale parfois, bonnet rouge, gilet jaune et colère noire au final. Et ça pourrait s'enflammer de nouveau face à la menace de casse sociale à Air France, chez Nokia ou à la Britannique. britanniférise en proie à des pertes records de la nuit à Roscoff en passant par Morlaix. La zone est en passe de devenir le triangle des Bermudes de l'emploi. Sous-traitants, commerce, école, une entreprise ferme et c'est tout un territoire qui trinque.
Un emploi industriel, c'est 4 à 5 emplois menacés et induits.
Benoît Dumont, responsable CGT à Lannion.
On a recensé effectivement 908 enfants salariés de Nokia. Donc c'est autant d'enfants scolarisés qui ne le seront plus ou moins sur le Trégor.
Alors justement, Charles Guyard, vous avez aussi rencontré Yann Thomas. Il est ingénieur, père de 3 enfants et d'ici juin prochain, voire beaucoup plus vite, il devra quitter Nokia. On écoute son témoignage.
On aura 3 semaines pour qu'il nous fasse des entretiens pour nous aider à nous reconvertir. 3 semaines pour se reconvertir, changer de vie, et ça nous paraît très léger. On a cette maison qui ne nous a pas coûté excessivement cher. Si on était obligé d'aller sur Rennes, par exemple, ce ne serait pas du tout les mêmes tarifs.
On a donc bien compris, il y a Nokia à Lannion, il y a Air France à Morlaix et Charles, il y a à Roscoff, Brittany Ferries en pleine difficulté.
Pas de licenciement pour l'instant ici, mais les quelques 3000 salariés naviguent à vue dans une mer agitée par le Brexit puis le Covid. Faute de passagers anglais, des bateaux restent à quai, des rotations sont supprimées et dans la ville, c'est la panique.
Hôtel d'Angleterre, bonjour.
Caroline Allard, la gérante de l'établissement.
Ok, so you need a cancellation.
Au bout du fil, des clients anglais qui annulent de peur d'être contraints à une 14aine de retours chez eux. Des appels comme cela, c'est tous les jours ou presque depuis des semaines, une véritable catastrophe.
Cette clientèle anglaise nous manque et va énormément nous manquer en octobre. J'ai été obligée de licencier tout le monde. Je ne sais pas si j'ai la capacité de continuer.
Aujourd'hui, les hôtels souffrent, mais qu'en sera-t-il demain si la situation perdure et provoque le naufrage complet de la Brittany Ferries, un nouveau séisme social en perspective dont les répliques pourraient bien faire trembler au-delà de cette région.
Enquête signée Charles Guyard pour Europe 1. Parmi les secteurs très affectés par la crise, l'automobile, bien sûr. Le groupe Renault est en comité social économique ce matin. Avec au programme les 4600 suppressions d'emplois en France, Aurélien Fleureau, on attend aussi pour les prochaines semaines la nouvelle stratégie commerciale du constructeur.
Il faudra peut-être aller plus loin que prévu dans l'effort de réduction de nos coûts. Cette phrase est signée Luca De Meo, le nouveau directeur général de Renault, dans un document que les salariés ont pu consulter cet été. Toujours les mêmes recettes, a dénoncé la CGT Renault. En revanche, en interne, l'arrivée d'un patron qui respire l'automobile a été accueillie comme une source d'optimisme. Ce sera dur, mais au moins, il y a une vision, selon Guillaume Ribert, délégué central de la CFE-CGC, syndicat numéro 1 du constructeur.
Socialement, on est dans une situation où on va dire que le dossier évolue depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général. Donc on sent un nouvel élan dans le dialogue social qui était quand même difficile lors des annonces du plan d'économie. On a bien compris que 2021-2022 vont être très très difficiles, avec des décisions dures mais nécessaires par rapport à la santé d'entreprise.
Parmi les signes positifs chez Renault, la vague de départ de cadres en direction du concurrent PSA s'est inversée ces derniers mois. Et à des postes clés comme l'ingénierie, le design et le marketing. Autre source d'espoir, le pôle d'excellence qui va accueillir la future plateforme des véhicules électriques dans le Nord sera dirigé par Luciano Biondo, le charismatique patron de l'usine Toyota d'Onin.
Une bonne nouvelle économique tout de même. 45 000 palettes de Nutella, c'est ce que pourra contenir le nouvel entrepôt du groupe Ferrero qui investit 42 millions d'euros en Normandie alors que la consommation de pâte à tartiner augmente de 4 à 5% par an en France. Vous restez avec nous dans un instant, 90 minutes pour convaincre 330 millions d'Américains. Le premier débat Joe Biden-Donald Trump ce soir. Et puis 2 ans pour rassembler le cinéma français. Véronique Kella et Eric Toledano élus aujourd'hui à la tête de l'Académie des Césars.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h09, la suite du journal, François Geffrier. Lors du tout premier débat du genre à la télé, Kennedy contre Nixon, il y a 60 ans, Donald Trump et Joe Biden étaient sans doute déjà en âge de s'intéresser à la politique du haut, respectivement de leurs 14 et 17 ans. Les voilà face à face ce soir.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Ohio, où se tient ce premier débat de la campagne présidentielle américaine de 2020. Un duel pas tout à fait normal.
Alors ça va être un débat en mode Covid. Il y aura très peu de public dans le bâtiment de la Cleveland Clinic transformé en bunker. Donald Trump et Joe Biden ne se serreront pas la main. Leurs pupitres seront à bonne distance l'un de l'autre. Ça ne les empêchera pas de s'empoigner au moins verbalement pendant 1h30 sans coupure pub, avec au programme la pandémie, l'économie, la Cour suprême ou encore les tensions raciales.
Oui, on s'attend à ce que ce soit assez vif.
Honnêtement, oui, et en fait, ça l'est déjà. Donald Trump a réclamé un test anti-dopage pour Joe Biden. Comme le président dépeint constamment son adversaire comme un vieillard sénile, eh bien, il explique que Joe Biden ne peut tenir un tel débat qu'en étant forcément dopé.
Xavier Yvon, si on se met un instant dans la tête des candidats ce matin, quel est l'enjeu pour eux avec ce débat ?
Alors, pour Donald Trump, c'est d'inverser la tendance. Il est à la traîne dans les sondages depuis des mois avec des écarts constants. Il va donc être très offensif. On sait qu'il veut attaquer notamment Joe Biden sur les affaires de son fils en Ukraine. Sujet aux gaffes et aux accès de colère, l'ancien vice-président, lui, s'est préparé à résister calmement à la déferlante Trump. Il a répété des simulations de débat avec un de ses conseillers dans le rôle du président. Pour lui, il s'agit d'éviter les faux pas et de se montrer aussi un peu plus aux Américains alors qu'il est critiqué pour sa discrétion dans la campagne.
Et c'est le genre de show télévisé qui peut vraiment décider certains électeurs ?
Alors ce qui est sûr, c'est que ce sera très suivi, c'est le Super Bowl de la politique, on attend jusqu'à 120 millions d'Américains devant leur télé, ce serait un record. Mais l'histoire récente montre que ces débats ont malgré tout un impact limité. Hillary Clinton, par exemple, avait été considérée comme la gagnante des trois débats en 2016, et ça ne l'a pas empêché de perdre l'élection.
Merci Xavier Yvon, envoyé spécial en ligne de l'Ohio aux États-Unis pour Europe 1.
Il salue son courage personnel. Emmanuel Macron rencontrera aujourd'hui Svetlana Tikhanovskaya, l'opposante biélorusse exilée en Lituanie, où le président français est en visite.
Là aussi, la diplomatie est de rigueur, mais on parle de cinéma. Le cinéma français, éprouvé par les tensions au sein de l'Académie des Césars.
Institution qui va élire ce matin Véronique Kella à sa tête. Le réalisateur Eric Toledano sera président adjoint. Ce sont les deux seuls candidats qui vont devoir apaiser une Académie des Césars plombée depuis des mois, Mathieu Charrier, bien avant la crise sanitaire.
Oui, depuis le début de l'année 2020 en fait, avec d'abord la contestation de la gestion opaque de l'Académie par l'Interzion depuis 17 ans, puis les 12 nominations pour Polanski, qui se retrouva enfin couronné meilleur réalisateur lors de la cérémonie, c'en était trop. Mais une fois l'ancienne direction évincée, il a fallu entreprendre une rénovation complète des Césars, sous l'égide du Centre National du Cinéma. Alors, principale décision, d'abord saluée par tous, l'élection aujourd'hui de nouveaux dirigeants, à parité parfaite, et représentant toutes les instances. Mais problème, sur les 182 nouveaux administrateurs, 18 membres historiques sont restés, c'était prévu dans les statuts, parmi lesquels Thomas Langman, condamné pour harcèlement moral sur son ex-compagne, et surtout Roman Polanski, encore lui, qui pour apaiser les choses a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à l'Assemblée Générale d'aujourd'hui. Les nouveaux élus vont donc devoir revoir ces statuts, afin sans doute d'évincer ces membres historiques dont Polanski, et puis surtout tenter d'organiser un peu plus sereinement la future cérémonie des Césars qui, si le Covid le permet, est toujours fixé au 26 février 2021.
Mathieu Charrier.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce mardi, vous le savez, marque le lancement des enchères pour l'attribution des premières fréquences de la 5G. Alors, est-ce un pas important pour la France ? Les défis, les risques, les opportunités ? On en parle avec le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, à notre micro.
A tout de suite sur Europe 1, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique.
Bienvenue à vous et bonjour Cédric O.
Bonjour.
Ce jour marque donc le lancement des enchères pour l'attribution des premières fréquences de la 5G. Est-ce que c'est un pas important pour la France aujourd'hui ?
Oui, c'est un pas important. On voit par exemple qu'il y a déjà 12 pays européens qui ont déployé la 5G, qu'il y a 100 millions de Chinois qui sont déjà connectés à la 5G, que les Américains déploient massivement la 5G et que tout le monde estime que pour la reprise économique, pour la réindustrialisation, pour l'avenir de l'industrie, c'est extrêmement important. Et donc c'est important que la France soit dans cette dynamique, notamment dans cette période de crise.
Vous dites 100 millions de Chinois, 100 millions de Chinois, et nous, est-ce qu'on a pris du retard en France ? Quand on regarde la carte, c'est assez impressionnant, il ne reste plus que la France.
On a un tout petit peu de retard, disons qu'on n'a pas de retard rédhibitoire, mais voilà, c'est le dernier wagon, il faut le prendre maintenant.
Pas de retard rédhibitoire, mais pas de débat non plus, Cédric O. Est-ce que malgré tout, même si vous êtes convaincu évidemment de la 5G, est-ce que vous le regrettez ?
Il y a quand même un débat qui dure depuis plusieurs mois. Je rappelle que la présentation de la stratégie nationale sur la 5G, elle a été faite par Mounir Majoubi en décembre 2018. Que les premiers courriers qui ont été adressés au maire, par exemple à Éric Piolle, le maire de Grenoble, sur la 5G pour le prévenir de l'arrivée de la 5G, c'est en mars 2018. Donc, il y a eu des débats, il y a même eu des discussions au Parlement.
Tu parles d'un vrai grand débat démocratique avec une vraie émulation.
Alors, il y a des questions qui peuvent se poser, il faut y répondre. Et je pense qu'il est même du devoir du gouvernement d'y répondre. Maintenant, on pourra rentrer peut-être dans les sujets sanitaires et les sujets environnementaux. Dès lors que ces sujets nous semblent maîtrisés, nous, on assume dans cette crise, d'aller très vite, parce que voilà, il y a une bataille pour les usines. On voit qu'il y a des usines qui ferment en France,
oui.
Et il y a une concurrence mondiale pour l'avenir de l'industrie, pour la réimplantation des emplois. Ah. Et nous, on assume d'aller très vite.
Donc la 5G,
parce qu'attendre, c'est laisser les usines s'implanter ailleurs.
La 5G serait un outil puissant, selon vous, d'industrialisation, de réindustrialisation ?
Ah mais bien sûr, c'est vraiment un outil de l'industrie de demain qui est absolument essentiel. On voit qu'il y a une expérimentation par exemple entre Orange et Schneider en France. Les Chinois, les Américains connectent toutes leurs usines. Et pour pouvoir implanter des usines, pour pouvoir développer l'industrie en France, on a besoin de la 5G.
Alors Cédrico, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin à ceux qui nous écoutent que le risque sanitaire est inexistant ?
Alors sur ce point-là, les études académiques ou scientifiques qui sont menées depuis 50 ans, elles sont très claires. Il y a eu 28 000 études qui se sont penchés sur cette question des ondes électromagnétiques, aucune n'a jamais mis en évidence un quelconque effet sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Et sur ces seuils limites d'exposition, je rappelle que la France est l'un des pays qui a le cadre le plus contraignant. En moyenne, les Français dans la rue sont exposés à des valeurs d'exposition aux ondes qui sont 200 à 300 fois inférieures aux normes limites.
Donc pas d'inquiétude à avoir. Vous êtes clair sur ce sujet ?
À ce stade, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte de rassurer les Français. Et donc je présenterai dans les semaines qui viennent un plan de contrôle spécifique dédié à la 5G, à la fois pour mesurer l'exposition aux ondes dans la rue ou dans les écoles, mais également au niveau des téléphones. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que si vous êtes un maire, si vous êtes une association environnementale, une association dédiée à la santé, vous puissiez demander un contrôle et que l'Agence nationale des fréquences radio qui fait ces contrôles, c'est-à-dire qui vient avec des camionnettes pour mesurer dans la rue,
monsieur,
ou dans les écoles.
Très bien ce plan de contrôle, mais vous savez qu'il y a déjà des maires, je pense à Bordeaux, à Lyon, à Besançon, certains maires écologistes qui vont et qui pourraient s'opposer très concrètement à l'implantation des pylônes de la 5G. Qui aura le dernier mot à la fin ?
Alors je rappelle que le Conseil d'État a été très clair il y a quelques années, ce n'est pas aux maires de décider si la 5G ou la 4G d'ailleurs doit être déployée chez eux. Je rappelle quand même que ces maires doivent quand même assumer une décision, c'est que d'ici 2 ans, les réseaux 4G vont saturer, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dans les grandes villes correctement utiliser son téléphone portable. Dans ces conditions, il y a 3 options, soit on laisse saturer, et ce n'est pas notre souhait, évidemment, soit on remet des antennes 4G, soit on met des antennes 5G. Sauf que pour une seule antenne 5G, pour faire le même travail qu'une antenne 5G, il faut une vingtaine d'antennes 4G.
Mais vous faites ce matin peser sur ces maires-là la responsabilité d'un mauvais réseau, d'une absence aussi de réseau, puisque vous dites que les réseaux 4G seront saturés dans certaines grandes villes, peut-être à horizon de 2 ans.
Ça, c'est la décision d'un responsable politique au quotidien. On peut se placer dans un monde idéal, sauf que la consommation de données, elle augmente, et que donc d'ici un an, il va falloir prendre cette décision. On laisse saturer, ou on met des antennes 5G qui consomment 20 fois moins d'électricité et d'énergie que les antennes 4G.
Là encore, c'est prouvé ?
Ah oui, c'est prouvé.
Est-ce qu'il faudra payer plus cher son forfait 5G ? Question très concrète pour ceux qui nous écoutent.
À ce stade, c'est difficile de dire ce que vaudront les forfaits 5G. Il est probable que dans la période commerciale, il n'y ait pas une augmentation significative des offres. Ensuite, on verra comment le marché s'organisera.
Garantir, en tout cas, vous souhaitez qu'il n'y ait pas quand même d'explosion du forfait 5G ?
Évidemment qu'on souhaite qu'il n'y ait pas d'explosion. Nous, on veille à ce qu'il y ait une grande intensité concurrentielle, c'est-à-dire que chaque opérateur ait des bandes 5G. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que les 4 opérateurs aient des fréquences 5G. C'est que ça permet de faire vivre la concurrence et de tirer les prix vers le bas.
Ouais, d'ailleurs, le pactole, j'allais dire, le montant des enchères, on entend parler de 3,5 milliards, voire même 5 milliards pour les opérateurs. Mis sur la table, vous confirmez cette fourchette ?
Je ne confirme aucune fourchette, on verra.
Vous espérez une somme, en tous les cas, de ce niveau-là ?
On a fait en sorte, d'abord, qu'on puisse avoir le juste prix, mais surtout qu'on puisse avoir un déploiement de la 5G qui se fasse vite et qui se fasse à la fois dans les villes, mais également dans la campagne, puisque nous avons mis nous avons mis une condition qui est que d'ici 2023, un quart des antennes qui seront déployées doivent l'être dans des zones peu denses, c'est-à-dire dans la ruralité. On a vu avec la 4G qui a eu ce problème-là. Donc aujourd'hui, déployer la 4G, déployer la fibre, c'est notre première priorité. Mais on ne veut pas réitérer ce problème-là avec la 5G. Ouais. Donc on a
fait
en sorte
que. Là, vous répondez à ceux qui vous disent, mais monsieur le ministre, il y a déjà des zones blanches et vous nous parlez de la 5G. On est très loin de ce débat.
Alors, sur ce sujet-là, il faut être très clair, il n'y a pas de concurrence entre 4G et 5G. Il n'y a pas un pays en Europe qui déploie plus vite des pylônes et de la fibre que la France. Juste un chiffre. Dans les 15 ans qui ont précédé 2018, il y a seulement 600 pylônes qui ont été allumés dans les zones blanches. Nous, dans les 2 ans qui viennent, on en fait 2000. C'est vous dire l'accélération. On passe de 600 à 15 ans à 2000 en 2 ans. Et au total, on en fera 12 000 en 8 ans. Donc on fait un effort historique sur la réduction des zones.
Vous pouvez nous garantir ce matin, Cédrico, vous qui êtes en charge de ce sujet du numérique, à ceux qui nous écoutent, que Huawei ne partagera pas nos données personnelles avec le gouvernement chinois ?
Donc je pense qu'il faut être très clair sur ce sujet. Il n'y a pas de risque pour les données personnelles des Français dans le cadre des déploiements des équipements 5G. Les risques qui sont liés au déploiement des équipements 5G, et je ne vise aucun opérateur, aucun équipementier en particulier, peuvent être des risques d'espionnage industriel. Et donc dans ce cadre-là, nous avons fait voter une loi du député Éric Botorel il y a 2 ans, 1 an et demi, qui nous permet et qui fait que l'ANSSI accorde des autorisations en fonction de l'équipement et de la localisation de l'équipement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut assurer à l'industrie française, à la France, que nos intérêts stratégiques sont protégés.
Vous êtes concret, vous nous parlez d'une loi, mais là je vous parle d'espionnage à un niveau, j'allais dire international. D'ailleurs je dis Huawei, le chinois, mais je pourrais dire aussi les États-Unis qui font pression par rapport à Huawei. Mais comment vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas transmission de ces données au-delà d'une loi ?
Mais à chaque fois qu'un équipement s'installe quelque part, l'ANSSI, en fonction de l'équipement, donne une autorisation ou pas. Donc on est extrêmement vigilant sur chaque implantation. Mmh. Oui, je pense que vous pouvez être rassuré. Mmh. On est extrêmement vigilant sur chaque implantation pour faire en sorte qu'on protège les intérêts
des
Français.
Mais pas d'obstacle à Huawei, donc.
Et je ne rentre pas dans les
débats. Mais pourquoi vous ne voulez pas ? Ici même, le patron d'Orange, Stéphane Richard, a affirmé sur Europe 1 il y a quelques jours qu'il y avait un vrai problème de gouvernance de Huawei. Est-ce qu'il dit vrai ? C'est un vrai sujet quand même.
Ça, c'est le problème des entreprises privées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons donné des autorisations à tous les équipementiers. Parfois, dans certains cas, on a dit à tel endroit, pour tel équipement, on préfère que ce ne soit pas tel équipementier. On défend nos intérêts stratégiques et on continuera à le faire.
Alors, je vais poser la question peut-être plus concrètement. Huawei voudrait ouvrir une grande usine à Strasbourg, dont la maire est écologiste. Une arrivée qui provoque des crispations. Est-ce que vous vous dites oui ou non pour l'implantation de cette usine Huawei ?
En règle générale, on est plutôt favorable à l'implantation d'usines étrangères. Il faut voir de quoi il retourne exactement. Je ne sais pas vous répondre sur
Pourquoi c'est si sensible de parler de Huawei ?
Mais il n'y a pas de problème pour parler de Huawei.
À vous entendre, je n'ai pas l'impression.
La preuve, c'est qu'on a donné des autorisations à tous les équipementiers. Donc, il y aura des équipements Huawei en France. À certains endroits, on préfère certains équipementiers.
C'est
vrai, pour des raisons stratégiques.
Avec la 5G, est-ce qu'on pourra télécharger plus rapidement l'application Stop Covid ?
Alors, certainement.
Ça vous fait sourire ?
Non, la 5G, pour expliquer quel est le bénéfice aux gens, je pense que c'est important. En gros, c'est comme si vous aviez la fibre sur votre mobile. Donc, on comprend la différence entre une 4G qui marche bien et la fibre en termes de débit et de stabilité.
Mais si je vous pose la question, est-ce que vous saviez que le Premier ministre n'avait pas téléchargé votre application ou l'application Stop Covid ?
Non,
vous
je ne saviez
pas. Vous l'avez découvert ?
Oui, je l'ai découvert.
En direct. Depuis des mois, Cédrico, vous faites la promotion d'une application pour laquelle même le chef de votre gouvernement n'est pas convaincu ?
Écoutez, je pense que Jean Castex a été très clair. Stop Covid,
ça, c'est
très
sûr.
Utile.
Oui.
C'est utile notamment dans le métro, dans les restaurants, dans les bars, quand il y a ces rassemblements, qu'on ne porte parfois pas le masque et qu'on ne sait pas qui est autour de nous.
Et un ministre ne va pas au restaurant, ne prend pas le métro, ne va pas dans les bars.
Je vais souvent au bureau au métro, mais en l'espèce, je pense que le Premier ministre ne le fait pas. Et donc, on a besoin, je le redis ici parce qu'on voit que l'application anglaise marche bien, Stop Covid, c'est utile, ça peut être très utile. Pour éviter la résurgence de l'épidémie et éviter de fermer les bars, par exemple.
Est-ce que le Premier ministre...
On invite tous les Français et les Françaises à la télécharger.
Est-ce qu'il a téléchargé depuis, le Premier ministre ?
Je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question.
Mais quand même, vous êtes en charge de cette application. Vous dites matin, midi et soir qu'il faut que les Français la téléchargent. Vous ne savez pas si le premier d'entre eux, le chef du gouvernement, l'a téléchargé ?
Non mais honnêtement, je ne suis pas le DSI du Premier ministre. Je sais que, par exemple, le président, lui, l'a téléchargé. Mm-hmm. Mais après, c'est à Jean Castex de faire ses choix.
Vous avez parlé du Royaume-Uni. 12 millions, Cédrico, de téléchargements pour Stop Covid. Mais en quelques jours après son lancement, comment vous expliquez un tel succès ?
Je ne me l'explique pas totalement, pour être totalement honnête. Je pense que cela nous dit quelque chose, c'est qu'il y a la place pour ce genre d'application en Europe. Et qu'on doit retravailler, on doit reconvaincre pour faire en sorte que les gens la téléchargent parce que ça va nous aider à éviter le reconfinement, ça va nous aider à lutter contre la propagation de l'épidémie.
Pour conclure, en fonction de quoi au gouvernement sont prises les mesures de restriction ? Écoutez la réponse hier de votre collègue, ici même, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu'on ne sait pas comment le virus se transmet. Les décisions qui ont été prises, c'est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisirs, il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes.
C'est le cas ? Les décisions ne sont pas prises en fonction de la circulation du virus ?
Il y a des indicateurs extrêmement précis sur l'état d'engorgement des urgences, sur la rapidité de diffusion du virus par région et par ville, et que dans ce cadre-là, il y a des décisions qui sont prises pour protéger les Français.
Tout est fait pour éviter un reconfinement ?
Tout est fait pour éviter un reconfinement.
Mais vous ne l'excluez pas ?
Tout est fait pour éviter un reconfinement.
C'est pas un mot tabou ?
C'est pas un mot tabou, mais notre logique et notre état d'esprit, j'étais avec Olivier Véran hier soir, c'est de tout faire pour éviter un reconfinement.
Merci Cédrico d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous,
Merci
ainsi
beaucoup.
Qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, l'info, le journal avec Hélène Zélani et puis le journal de Roland Garros. Restez bien sur Europe 1.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Si ce projet se matérialise, nous devrons répondre à une situation ingérable pendant 18 à 24 mois. Déclaration ce matin du directeur général de Suez, Bertrand Camus, qui était votre invité, Mathieu. Il a une nouvelle fois rappelé son opposition au projet de mariage voulu par Veolia, dont, dit-il, le PDG ne sera pas capable d'assumer ses engagements en termes d'emploi. Enquête ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire après la découverte du corps de la jeune Victorine, 18 ans, à Villefontaine, en Isère. Un appel à témoins est lancé. Un important campement de migrants démantelé en ce moment à Calais. 7 à 800 personnes doivent être évacuées. Le préfet présent sur place explique vouloir mener cette opération avant les grands froids de l'hiver. À quand la fin des animaux sauvages dans les cirques ou des dauphins dans les bassins ? Des mesures en faveur du bien-être animal seront annoncées dans la journée, une certitude. La fermeture des 4 élevages de visons en France d'ici 5 ans. Face à face très tendu, la nuit prochaine, en perspective, Trump contre Biden. Premier débat de la présidentielle américaine qui commence à 3h du matin, heure française. Les États-Unis, où de violents incendies dévastent les vignobles californiens de la Napa Valley. Des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur logement.
Merci Hélène Zélani, 8h31.
Passionné de tennis, c'est l'heure du journal de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Le journal de Roland-Garros avec vous, Corinne Boulou, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Raphaël Nadal, souverain, Gaël Monfils, désarmé.
Oui, plombé par 58 fautes directes, le numéro 1 français s'est pénalisé tout seul. Gaël Monfils, tête de série numéro 8, n'a pas réussi à trouver le bon rythme face au Kazakh Bublik, 49e mondial. Il a sombré en 4-7 et encaisse sa troisième défaite consécutive dès le premier tour depuis sa reprise. C'est même la première fois depuis ses débuts dans le tournoi en 2005 que Gaël Monfils perd au premier tour de Roland-Garros. Raphaël Nadal, lui, a pris ses marques face au Biélorusse Gerasimov, balayé en 3-7 par le tenant du titre. C'est passé sans difficulté aussi pour l'Autrichien Thiem, finaliste des deux derniers Roland-Garros. Et pour l'Américaine Serena Williams, en revanche, c'est terminé pour la finaliste de l'an passé, la Tchèque Vondrousova.
Le match de la nuit remporté par une jeune Française de 19 ans.
Oui, balle de match victorieuse pour Clara Burel à minuit 10. Minuit 10, vous avez bien entendu, match qui rentre dans l'histoire du tournoi comme le plus tardif. C'est aussi pour la Rennaise, ex-numéro 1 mondial junior, sa première victoire en Grand Chelem. Belle défaite en revanche pour le français Corentin Moutet après le match marathon de ce début de tournoi. 6h05 de jeu en deux jours. Deuxième match le plus long de toute l'histoire de Roland-Garros.
Au programme de la journée, l'entrée en lice du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui était notre invité hier matin.
Oui, le Serbe aura un premier adversaire à sa portée, Mikael Immer, jeune Suédois de 22 ans, d'origine éthiopienne, 80e mondial. Après Nadal, Djokovic, demi-finaliste l'an passé et victorieux il y a 4 ans, est évidemment l'un des grands favoris du tournoi. L'avis de notre consultant pour la quinzaine de Roland-Garros, Cédric Pioline.
On peut penser que les conditions de jeu, finalement, sont peut-être plus favorables pour lui. Je dirais pas forcément idéal parce que du fait que ça soit lent, les points seront plus compliqués à finir. Il faudra être patient, il faudra construire. Mais je pense que la bonne nouvelle du côté du Serbe, c'est que le rebond sera beaucoup, beaucoup moins haut. Et on sait que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a la balle plus ou moins au niveau de la hanche, il est quasiment le meilleur joueur au monde. Et c'est ce qui risque de se passer. Et ça sera à son avantage. Donc oui, il a quelques raisons de se réjouir. Mais bon, au regard de la saison telle qu'elle s'est déroulée, le principal adversaire de Djokovic, c'est Novak.
Et oui, rappelons sa disqualification à l'US Open pour jet de balle involontaire sur une juge de ligne. Hormis Djokovic, nous suivrons également aujourd'hui les débuts dans le tournoi de Kristina Mladenovic, Richard Gasquet et du jeune Harold Maillot, 18 ans, vainqueur du dernier Open d'Australie Junior en début d'année.
Merci beaucoup Corinne Boulou, c'était le journal de Roland Garros.
C'était le journal de Roland Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
8h34 à la météo avec Laurent Cabrol.
Eh bien justement, à Roland-Garros, le temps sera un peu moins froid ou plus doux si vous préférez, et les pluies vont s'estomper, il y a eu quelques pluies ce matin, et elles vont s'estomper, et l'après-midi s'annonce relativement éclairci, enfin de courtes éclaircies. Partout ailleurs, notamment sur la moitié nord, ce sera un temps souvent couvert avec des pluies ou des pluies fines ou des bruines si vous préférez, près des côtes de la Manche. Du Poitou-Charentes à la Bourgogne au Berry, ça ira mieux aussi cet après-midi comme sur Paris. Et en Lorraine, Alsace et tout. Et puis dans le sud-ouest, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, c'est un temps voilé, disons un temps maussade, mais voilé, sans trop d'intempéries, même sans pas. Il n'y en aura pas. Sur les Pyrénées, le bassin méditerranéen, le massif alpin, ce sera ensoleillé. Sur la ville de Lyon, comme sur la ville de Marseille, nous aurons un brin de soleil. Les températures maximales entre 18 et 22 degrés, ça remonte un tout petit peu, ça va pas durer.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Dans un instant, on prend soin les uns des autres. Dans Europe Matin, vous le savez, c'est la journée mondiale du cœur. Il faut prendre soin du cœur des femmes. C'est très sérieux, Jimmy Mohamed, dans un instant. Notre planète avec Fanny Agostini. Les animaux souffrent moins de problèmes dentaires. Prenons exemple sur leur alimentation. C'est très sérieux aussi. Ce sera avant la revue de presse. Un peu moins sérieux sur Europe.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 8h37, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est la journée mondiale du cœur et ce matin vous avez souhaité prendre soin justement du cœur des femmes. Attendez, il y a une différence, Jimmy, sérieusement, hein, entre le cœur des hommes et celui des femmes ?
Oui, et pendant longtemps, on a cru que la crise cardiaque ne touchait que les hommes, l'AVC, les personnes âgées, et que le cancer du sein était plus meurtrier que les maladies cardiovasculaires chez la femme. Eh bien tout cela est faux. Ces maladies cardiovasculaires tuent 8 fois plus que le cancer du sein avec des femmes qui sont de plus en plus jeunes. Depuis 10 ans, le nombre d'infarctus du myocarde a diminué chez les hommes et dans le même temps, il a augmenté chez les femmes. Et il continue même de progresser. C'est d'autant plus étrange que la médecine a fait d'énormes progrès ces 30 dernières années. Alors pendant longtemps, les femmes ont été protégées de ces pathologies cardiaques par les hormones naturelles, l'œstrogène. Et grâce à cela, ces maladies arrivaient 10 ans plus tard en moyenne que chez l'homme. Or, le mode de vie des femmes a changé. Elles ont adopté les mêmes comportements à risque que les hommes. Elles fument plus, consomment plus d'alcool ou ont une vie professionnelle plus stressante. Rajoutez à cela une alimentation déséquilibrée, un peu de sédentarité, du surpoids, et vous obtenez toutes les pathologies cardiovasculaires que vous risquez d'avoir. Et puis, il faut savoir que ces pathologies cardiaques, comme l'infarctus, ne se présentent pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. Ces différences font que certaines vont négliger leurs symptômes ou tout simplement ne pas être pris au sérieux par le corps médical. Chez l'homme, l'infarctus se manifeste par des douleurs à la poitrine qui vont irradier dans la mâchoire et dans le bras gauche. Or, chez la femme, elle peut avoir ces symptômes ou des symptômes qui n'ont rien à voir. Ça peut se manifester par un simple essoufflement, une difficulté brutale à respirer, une fatigue intense qui peut être mise à tort sur le compte d'une angoisse. Et puis, elles peuvent aussi avoir des formes digestives, mal à l'estomac, des crampes, des douleurs, qui fait qu'on ne va pas les prendre au sérieux.
Donc vous dites que non seulement elles ont des symptômes différents de ceux des hommes, mais en plus elles seraient moins bien prises en charge.
Eh bien oui, écoutez bien, quand une femme ne se sent pas bien, elle présente et qu'elle présente des symptômes d'infarctus, son entourage met en moyenne une heure de plus que pour un homme avant d'appeler un numéro d'urgence. Et une fois arrivée aux urgences, eh bien il y a encore une heure de retard avant la prise en charge par un cardiologue. 55% des accidents cardiaques sont fatals chez elles, contre 43% chez l'homme. Et elles font plus de récidives dans l'année qui suit l'accident. C'est aussi parce qu'elles sont moins nombreuses à suivre un programme de réadaptation cardiaque. Dans une autre étude, menée auprès de 4000 personnes dans 32 pays, les femmes qui se plaignent de douleurs thoraciques ont 20% de chances en moins que les hommes de se voir proposer une consultation médicale. Elles sont aussi moins nombreuses à recevoir un diagnostic exact et ont 40% de chances en moins de se faire prescrire un examen des artères coronaires. Bref, tout ça pour dire qu'il faut sensibiliser le grand public aux particularités du cœur des femmes. Et pour ça, d'ailleurs, nous recevrons de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, le professeur Claire Mounier-Veillé, qui viendra justement nous parler du cœur des femmes.
La journée mondiale du cœur, le cœur des femmes au programme de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy, hein, de 15h à 16h tout à l'heure. Il est 8h40 sur Europe 1 et nous retrouvons Fanny Agostini, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Vous nous dites Fanny... Vous nous dites ce matin qu'on peut faire le lien entre nos problèmes de dents et la crise écologique ?
Absolument, oui. Si l'on observe de près ce qui se passe à l'intérieur de nos bouches, Mathieu, on comprend alors qu'une bonne partie de nos tracas dentaires... Oui, c'est vrai, pardon, que ce n'est pas évident. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un lien plus ou moins direct entre ce qui se passe effectivement dans nos bouches et la crise écologique actuelle, les changements écologiques majeurs. Selon Peter Ungar, paléontologue et anthropologue dentaire à l'Université de l'Arkansas, nos problèmes de dents, caries, gingivites, dysharmonie nécessitant des appareils dentaires systématique à l'adolescence n'ont pourtant rien d'une fatalité. Ce chercheur a étudié pendant 30 ans nos mâchoires en les comparant aux fossiles de nos ancêtres, mais aussi aux dents des autres animaux vertébrés. Résultat, durant ces dernières décennies, ce sont les dents humaines qui se sont fortement dégradées, contrairement aux autres mammifères qui présentent bien moins de problèmes.
Pourquoi sommes-nous devenus plus sensibles que les autres animaux ?
Alors, nous n'avons plus la dent dure comme l'avaient nos ancêtres pour la simple et bonne raison que eux étaient des pros de la mastication. Du néolithique à la période pré-industrielle, notre nourriture, même si elle a transité de la chasse et de la cueillette vers l'agriculture, n'a en réalité pas trop varié dans sa consistance. C'est vraiment l'industrialisation de notre alimentation moderne, le tout cuit, le pré-mâché, qui a changé la donne en rendant nos dents paresseuses. Les millions d'années d'évolution qui ont permis d'aiguiser ce formidable outil masticatoire qu'est la mâchoire a muté en l'espace de 50 ans. Et le retrait de nos dents de sagesse en est un indicateur, figurez-vous. Nous sommes tous contraints d'y passer, vous et moi. Nous ne mastiquons plus assez en sollicitant nos dents du fond. C'est ça l'explication, qui ont pourtant une fonction première de broyer et même de mouliner nos aliments. Et comme nous ne nous en servons plus, bien elles deviennent dérangeantes, gênantes.
Les dentistes s'en sont eux-mêmes rendus compte.
On s'en est d'abord aperçu chez les animaux en distribuant de la nourriture très molle à des primates. Au bout de quelques générations, leurs mâchoires s'étaient peu à peu atrophiées et leurs dents se sont dégradées. Et aujourd'hui, les dentistes s'intéressent à la racine du problème pour les humains. Ce lien de cause à effet doit venir questionner à la fois ce que nous mangeons et la façon dont nous le mangeons, pour des raisons de santé évidentes, mais aussi pour mieux comprendre l'évolution de notre système alimentaire qui, en proposant du fast-food, dégrade aussi bien nos dents que la planète.
Merci beaucoup Fanny Agostini, notre planète. Il est 8h42. À suivre, la revue de presse, Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Mathieu, ne bougez pas, on vous retrouve tout de suite pour le titre principal de l'actu.
Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, chers auditeurs. L'info du jour, ce sont les salles de sport, nous l'avons dit, qui ont fermé depuis 48 heures. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris 7 kilos à cause de cette fermeture. Ouais. Bon, c'est vrai que j'avais commencé à grossir un petit peu avant, mais ça me fait quand même une bonne excuse. Et puis en plus, j'ai des bonnes dents, des belles dents, alors je croque la vie, je croque tout. Bon, là je suis malade ce matin, chers auditeurs, sur Europe1.fr, j'ai mis des rayures, ça m'amincit beaucoup.
Ah oui, rayures verticales, oui, c'est ça.
Ça me fait plus filiforme.
Bref, ça marche, non, allez, ça marche
on,
bien.
On va pas parler que de moi ce matin. Bref, on va tous prendre, il faut le dire, 10 kilos cet hiver. Non seulement on ne va plus draguer dans les bars qui sont fermés, et du coup on va se laisser aller. Ça sent la grosse chute de natalité en 2021 et que tout le monde change, c'est ça aussi, plus personne voudra ken personne. Voilà. Et puis, l'info sport. On en parlait avec Virginie Fulpin, avec Corinne Boulou, c'est Roland Garros, c'est Gaël Monfils qui... Et c'est une nouvelle qui a révolutionné la saison de tennis, qui a été, c'est fou, éliminé au premier tour. Belle régularité du français. Il réussissait à perdre en juin, maintenant il perd aussi en septembre. Il a même été éliminé plus vite que d'habitude. En fait, c'est un joueur qui a la défaite équipé 5G. Voilà, éliminé 10 fois plus rapidement que les autres.
Merci Mathieu. On l'a appris ce week-end, Michel Drucker a subi une petite opération du cœur. On va recevoir Gérard Depardieu, qui est un ami de longue date de Michel Drucker.
Oh, salut la compagnie.
Salut Gérard.
Salut Béliard, salut Caramon, salut Bitou. Oh, le docteur Jimmy Mohamed. Il a pris ma tension quand je suis arrivé. Ça va, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je ne suis plus qu'à 37-12.
Gérard, vous vouliez dire un mot à Michel Drucker,
il
qui va bien.
Il prénom,
hein.
Gérard. Hein, ah, ouais.
Ah,
oui.
Ah bah oui, oui, oui. Je le pratique régulièrement. Donc,
vous vouliez...
Témoignage.
Vous vouliez dire un mot à Michel Drucker. Il va bien, hein, on rassure tout le monde.
Oui, ça fait des années que je lui dis à Mich, mais ma couille, arrête avec tes conneries de sport et de minéral, tu te fous ta santé en l'air. Hein. Dis-leur, Laurent, regarde-le, le cabrol, il picole, il est en pleine forme. Hein. Il n'a pas cru le gros GG, mon Drucker. Résultat, qui c'est qui est à l'hosto devant une purée de brocoli? Ben c'est Mich. C'est Michi. Et qui c'est qu'au bistrot devant un gigot pour 4 personnes? C'est Bibi. Hey, Michel, arrête tout. Le sport, je te le dis, c'est de la merde.
Oh là.
Allez, je file, je vais aller boire un coup avec Bigard. Oh, j'espère que j'ai pas trahi un secret en révélant que Jean-Marie aime la Bibi.
Pas vraiment, non. Allez, on embrasse Michel Drucker. Merci Gérard Depardieu. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est prononcé en faveur d'un procès, de procès, oui. Et une justice entièrement filmée et diffusée. Et il est avec nous ce matin. Vous déplorez qu'on n'ait jamais filmé et diffusé les procès jusque-là, maître?
Oui, madame. Oui, madame. Pourquoi? Notamment parce que, lorsque je plaidais, j'étais en toute modestie le meilleur, madame. À la fin des plaidoiries, savez-vous que j'allais en sanitaire pour m'embrasser dans le miroir. Je me disais, Eric, mon Eric, tu étais bon, tu étais bon, tu étais très bon, mon champion. Et que des plaidoiries telles que celles-ci, de cette qualité, madame, le grand public n'ait pas pu les voir. Sincèrement, ça me rend malade. Quel gâchis, disons-le.
Oui, un plaidoirie de qualité, mon cul.
Ah, Patrick Balkany, bonjour. C'est vrai que c'est Éric Dupond-Moretti qui vous avait défendu.
Oui, oh, mais ça, je m'en souviens. Puis résultat, j'ai pris 3 ans de cabane. Alors, les plaidoiries du champion, merci bien.
Non, mais c'est peut-être que vous étiez un petit peu coupable aussi, non ?
Un petit peu coupable. Non mais attendez, Leclerc, de quoi je me mêle là, hein ? On ne commente pas une décision de justice.
Ah,
bref,
pardon,
moi, je regrette qu'on n'ait pas filmé mon procès, hein, pour vous montrer le niveau de nullité de Dupond-Moretti. Ah ben écoutez, quand ton surnom c'est Acquittator, tu te débrouilles pour faire honneur à ta réputation. Là, j'ai passé, monsieur Béliard, des semaines à manger de la bouillie froide dans une cellule de 4 mètres carrés. Non, vraiment, c'est un gros nul, Dupond.
Bon, ben on va pas les réconcilier tous les deux. Hein. Passons à autre chose. Emmanuel Macron qui a poussé un gros coup de gueule contre la classe politique libanaise. Les principaux chefs de parti ont échoué à se mettre d'accord pour former un gouvernement, contrairement à ce qu'ils avaient promis, pour obtenir une aide financière internationale. Mmh. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. À tous les gouvernants qui gouvernent, aux dirigeants qui dirigent, aux politiciens libanais qui, eux, ne sont pas foutus ni de diriger, ni de gouverner. Vraiment, une bande de blaireaux. Pardonnez-moi d'être trivial, mais j'ai honte. J'ai honte pour cette classe politique. Me dégoûte.
Alors, vous aviez demandé un gouvernement libanais composé de ministres qui devaient être, je cite, « indépendants et compétents ».
Voilà, voilà. Et même ça, ils ne sont pas foutus de le faire. Alors, bon, je sais, je suis réaliste, je sais que parfois on a du mal à avoir des ministre compétent. J'ai eu Muriel Pénicaud, Christophe Castaner, Juliette Ndiaye. Je pense à Colomb de Rugy. Bon, enfin, je réalise quand même que j'ai eu une belle bande de clowns. Bon, enfin, quand même, il doit bien exister une demi-douzaine de politiciens compétents au Liban. Merde, vous allez voir que je vais encore devoir faire tout moi-même. Mais vous savez, s'il faut que je sois aussi président du Liban, par intérim au moins, ça ne me fait pas peur. C'est une passion pour moi, la politique.
Et vous avez également réclamé le départ du président biélorusse.
Oui, là aussi, ça suffit, franchement, totalement incompétent. Et il n'y a personne pour le remplacer. Mais vous savez, la Biélorussie, en plus du Liban et de la France, si vraiment il faut s'y coller, ben, je ne suis plus à ça près. Hein,
et avec la Turquie, les relations sont toujours tendues. Oui, et la Turquie
Erdogan,
aussi.
Erdogan, n'en parlons pas, mais moi je pense qu'il faut le remplacer, Erdogan, au plus vite. Vous savez, non mais je peux m'y coller, vous savez, après la France, le Liban, la Biélorussie, la Belgique aussi, oui, parlons-en, c'est tellement le bordel en Belgique, ça aurait mieux si je m'en occupais. Bon bref. Je peux, très sincèrement, je connais ma capacité de travail et mon niveau de sommeil, je peux très bien garder la Turquie pour m'occuper le week-end. Non mais vous savez, les pays du monde, faut s'en occuper, faut tout leur dire, sinon ils font n'importe quoi. Franchement, je vous le dis, tous les pays du monde, on dirait, c'est tellement le bordel, on dirait la France.
Non, bah, si, c'est sympa. Bon, mais enfin, monsieur le président, bon courage pour toutes ces fonctions à venir. Didier Raoult a affirmé que des médecins des hôpitaux de Marseille diffusaient des messages trop alarmistes. On va en parler avec la maire de Marseille, Michèle Rubirola, qui elle aussi est médecin et homéopathe.
Non, mais écoutez, madame, Julie, arrêtez un peu avec la mère Michèle. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie, oui, merci de votre bonne note. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie d'une homéopathe sur des questions médicales de plus haut Est-ce qu'on demande, non mais oui, mais franchement, il faut mettre l'église au milieu du village, est-ce qu'on demande à Aya Nakamura son avis sur les décisions de l'Académie française? Non. Hein, ou est-ce qu'on demande à M. Cabrol s'il préfère la Badoit, la Vichy Saint-Dior ou la Cristalline? Il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes.
Voilà. C'était encore Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. On n'aura jamais la nouvelle. Hein.
Oui, là, pardon, mais c'est à moi d'intervenir. C'est à moi. Moi qui ai soutenu Didier Raoult, corps et âme. Moi, souvenez-vous, qui ai songé même à lui édifier une statue en marbre rose. Moi qui ai voulu fonder une église à son nom. Mais là, je le dis, je m'adresse à lui directement. Didier, Saint-Didier, mais qu'est-ce que tu fais? Tu critiques des médecins d'hôpitaux marseillais. Mais enfin, mais tu n'es pas censé faire cela. Tu devais dire qu'à Marseille, on avait raison et qu'à Paris, c'était des cons. On te soutenait, on te croyait en toi et là, tu nous trahis. Non, je le dis, Saint-Didier, ressaisis-toi.
Allez, on va vous laisser. Merci, monsieur Godin. Bah, à bientôt, hein. Ces jours-ci, oui, certainement. Allez, pour terminer, on va retourner à Roland-Garros. Alors, comment ça se passe, Nelson Montfort?
Oui, on met... Quel est le con qui a eu l'idée de faire Roland-Garros en décembre, franchement.
Non, mais on vous entend là, au Nelson.
Franchement, on n'a pas...
Nelson,
oui.
Ah, pardon. On vous entend, vous êtes sur Europe 1, là.
Sur Europe 1 en ligne, oui. Oui, ma chère Julie, quel bonheur d'être ici pour couvrir Roland-Garros. Quel événement, Roland-Garros, où malheureusement... Les conditions, légères conditions météorologiques ne sont pas idéales. Chaque jour, les organisateurs scrutent la météo en espérant que cela va bien se passer.
Mais... C'est plus du tout important, la météo. Il y a un toit à Roland-Garros.
Oui, mais écoutez, ce que l'on craint réellement, c'est qu'il neige. Et si la neige s'accumule sur le toit du central, le toit peut s'effondrer sous poids et tuer Rafael Nadal sur le coup.
Dedans, ça a l'air chouette, l'ambiance, là-bas.
Non, pas du tout. C'est horrible, disons-le. Déjà, je vais vous faire une confidence, ma chère Julie. Nous connaissons depuis suffisamment longtemps. Déjà, un match Krajinovic contre Kratchanov en été avec du monde, c'est chiant. Mais alors là, dans un automne pluvieux avec personne dans les tribunes, c'est à se flinguer. Voilà, ne mettez surtout pas un dépressif devant France 2 cette année. Voilà, c'était Nelson Montfort depuis Roland-Garros, sponsorisé par Lacoste, BNP et Xanax.
Merci Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse carré, écoutez sur Europe1.fr. 8h56. Très bon réveil. Ouais, il va falloir se réveiller maintenant, il est presque 9h. Philippe Vandel est avec
il
nous.
Il est temps, ouais.
Bonjour, Philippe.
Je suis réveillé depuis longtemps. Salut Mathieu, notre info média du jour, c'est un pays qui se tient sage. Documentaire sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes, mais pas seulement. Documentaire qui va beaucoup faire parler, ça sort demain. Et son réalisateur, David Dufresne, sera avec nous. On sera ensuite avec la psychologue nutritionniste Laurence Aura et le quintuple champion du monde d'apnée, Arthur Guérin-Boëri. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les fers de lance de la nouvelle émission de Michel Simès, Prenez soin de vous, qui va nous faire gagner des années de vie en bonne santé. Puis enfin, Didier Van Kovelaert pour son dernier roman, Van Kovelaert prix Goncourt, pour son dernier roman, L'inconnu du 17 mars. C'est l'histoire d'un sans-abri confiné avec une créature de rêve. Ça commence comme ça et ça finit avec le coronavirus, les ravages de la 5G et des extraterrestres.
A tout de suite, c'est tout un programme de Culture Média. Non, j'écoutais, je prenais la liste avec vous, Philippe Vandel.
Vous avez raison.
Culture Média de 9h à 11h. Moi, je n'y arrive plus la fin là, ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Je vais vous souhaiter une très belle journée.
La semaine se termine. Hein.
À toutes et à tous, on est mardi, tout va bien. Je vais revenir demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.